commencer Bezrat Hashem tranquillement notre deuxième shiur sur le chapitre 22, lettre 22 du Admor HaZaken. Rappelez-vous, on n'a pas fini.
Donc,
voilà. Donc rappelez-vous pour ceux qui n'est, je rappelle rapidement pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est une lettre que l'Admor HaZaken a écrite lorsqu'il s'est rendu compte qu'avec l'afflux de Chassidim, il ne pouvait plus accueillir tout le monde. Et de manière générale, il s'est rendu compte que les Chassidim, quand ils venaient le voir, ils lui posaient des questions de la vie de tous les jours. Ça veut dire que normalement, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, depuis l'époque de la Gemara, de tout temps, quand on allait voir un tzaddik, on lui demandait des questions de Torah. Au maximum, on lui demandait une bracha. Hein, on a eu un long débat dessus la semaine, vous vous rappelez ? Donc, quand on allait voir un tzaddik, on lui demandait soit une bracha, soit une question de Torah. Mais on lui demandait pas des conseils dans les affaires, c'est pas son domaine. Il n'a rien à voir avec un tzaddik. Et la Admor HaZaken dit que, apparemment, avec le temps, avec les générations, on a vu que les gens, ils viennent demander au tzaddikim, donc à un rabbi, pas seulement les choses qui sont le domaine du tzaddik, ça veut dire des conseils pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour étudier des questions de Torah, des brachot. On se met à demander même des conseils. Et donc, il a posé la question, c'était le thème la semaine dernière. Je suis à la page 267. Tenez, j'ai encore un livre ici. Donc on a posé la question la semaine dernière, il a dit, où vous avez trouvé ça, depuis l'époque de la Gemara, que quand une personne a un problème, il a un conseil à demander dans les affaires, il va demander à un tzaddik. Quel rapport ? C'est pas cohérent. Donc on a passé la semaine dernière de longues minutes à essayer de développer ensemble, et on arrivait ensemble à la conclusion que c'est pas cohérent. C'est pas normal a priori, on le fait aujourd'hui, bien sûr qu'aujourd'hui on le fait. Mais c'est un concept qui n'existait pas, ni à l'époque de Moïse, ni à l'époque de la Gemara. Ni à l'époque de la Mishnah. On n'a jamais vu qu'une personne qui avait un problème, qui avait un conseil dans les affaires, par exemple, ou qui avait un conseil, par exemple, de problème de Shalom Bayit, entre un homme et sa femme. Quel rapport avec un tzaddik? Pourquoi tu vas demander à un tzaddik un conseil? Quel rapport avec un, va demander à un conseiller matrimonial? Quel rapport avec un tzaddik? Attendez.
Pourtant aujourd'hui.
Bien sûr, non, attendez.
Il y a beaucoup de.
C'est pas bon exemple. Hein.
J'ai pas dit.
Oui,
j'ai,
non, mais bon.
J'ai pas dit qu'il faut pas le faire.
À contrario.
J'ai dit, ça c'est l'argument qu'a développé l'Admor HaZaken. C'est l'argument qu'a développé, ça veut dire. L'argument qu'il voulait développer. Ah, Hazak. L'argument qu'il a développé, il a dit, peut-être que on est parti trop loin. Peut-être qu'on demande finalement à un tzaddik des choses qui ne concernent pas le tzaddik, peut-être qu'on est parti trop loin. Alors, l'Admor HaZaken a dit, bien sûr, quand un tzaddik, t'as quelqu'un qui vient lui poser une question, il fera ce qu'il peut pour l'aider, même si c'est pas de son ressort. Mais la question qu'on a soulevée la semaine dernière, c'est finalement de dire, est-ce que des fois, la boucha c'est parfait. Et c'est Kachar Levesa. Allez, je commence par les Chaïm.
Une larme de parvé.
Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Viens, approche-toi. Prends ta chaîne, approche-toi. Le Chaim, le Chaim. Ouais, bien sûr, ouais, Kachar Pessar. Je sais pas si elle est Kachar Pessar, mais elle a beaucoup Kachar Pessar, quoi.
Kachar Pessar, elle est à mauve autour.
C'est de la fleur. Oui, exactement, ouais.
Après, je m'en occupe.
Non, la vodka, c'est pas Kachar Pessar.
C'est celle où c'est marqué Kachar Pessar.
Ah, la
bouchra. Non, la bouchra, elle est Kachar Pessar.
Oui, d'office.
Non, non, pas d'office.
Non, ça dépend, non. C'est pas toujours écrit Kachar Pessar. Elle est Kachar Pessar, mais c'est pas tout.
Pourquoi ce serait pas Kachar Pessar?
Parce que dans l'usine, il y a des restrictions pour la faire Kachar Pessar.
C'est une question de surveillance.
Question de surveillance, il faut s'assurer que ceux qui ne sont pas rentrés, ils n'avaient pas du khamez dans la main, dans la poche, etc.
C'est électrique, mais enfin, électrique, c'est automatique. Tout est...
Ouais. Quand même.
Le mec, il allait remplir les bouteilles à la main.
Non, mais quand même, pour avoir la
certification. Avec un noir.
Non, pour avoir la certification Kachar les pesa, il faut quelqu'un qui fasse le tour de l'usine avant chaque matin, qui s'assure qu'il n'y a pas de khamez, etc. C'est comme ça. Khamez, c'est spécial. Alors, donc, j'étais en train de dire que. On est. Allez, rabotaille, on va essayer de se concentrer. David, c'est bon ou pas? Un beau taille, on va essayer de se concentrer parce qu'aujourd'hui ça va être un peu compliqué. C'est bon ou pas? Donc la question qu'on se pose, qu'on a posée la semaine dernière, c'est est-ce que finalement on n'est pas allé trop loin dans notre approche quand on va voir les tzaddikim? C'est ça la question qu'on s'est posée. Alors je sais, il y a plusieurs après qui sont venus me voir dans la semaine, il y en a au milieu de la semaine, il y en a le Shabbat. Ils m'ont dit, tu sais, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce qu'on a étudié lundi soir. Parce que c'est vrai, parce que c'est une question qu'on se pose. Est-ce que finalement on n'est pas parti trop loin? Maintenant, on a expliqué que même quand l'Admor HaZaken a envoyé cette lettre, dans laquelle il a demandé au Chassidim de plus venir le voir pour lui demander des questions matérielles, des questions d'ordre matériel, ça veut dire sur le business, etc., sur tout ce qui n'est pas spirituel, les Chassidim ont quand même continué à venir le voir pour lui poser ces questions. Et l'Admor HaZaken n'a jamais arrêté de répondre aux questions. Ça veut dire qu'il fallait faire une remise au point. Mais en vérité, comme on va expliquer dans la suite, c'est évident que pour un chassid, c'est évident que même son matériel doit être géré par son rabbi. Mais il faut quand même faire cette remise au point.
Ah, c'est évident maintenant ?
Alors justement, aujourd'hui on va renverser la situation. Donc on va développer ici sur deux aspects. La semaine dernière, on s'est arrêté sur un premier aspect. Et aujourd'hui, même pour ceux qui n'étaient pas là, on va développer un nouvel aspect. L'aspect qu'on a développé la semaine dernière, c'était qu'on a dit qu'a priori, on n'a jamais vu ce concept de tous les temps, ni à l'époque de la Mishnah, ni à l'époque de la Gemara, ni à l'époque des prophètes, qu'on venait demander à un tzaddik des conseils sur des choses qui étaient matérielles. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, il va développer encore autre chose. Il va dire, finalement, et c'est ça ce qu'on a, ce moment-là, on a à peine commencé ça, et ça a commencé à chauffer, j'ai dit que ça c'est cette semaine. D'accord ? Allez, rabotez. Par contre, on va devoir se concentrer. La question qu'on va se poser, c'est la suivante. Il va dire, bon, imaginons que c'est un concept qui n'a jamais existé, ni à l'époque de la Mishnah, ni à l'époque de la Gemara, c'est un nouveau concept. D'accord, bon, c'est un nouveau concept, il n'y a pas de problème. Il va poser une question, il dit, est-ce que le fait, quand Akadosh Baruch Hu m'envoie une épreuve, et que je vais demander une bracha à un tzaddik, est-ce que quelque part, c'est pas un manque de emouna? On a juste commencé, ça veut dire ici. Vous suivez? Il dit, est-ce que finalement, c'est pas quelque part un manque de emouna? Parce que, s'il y a un problème, qui c'est qui m'a envoyé ce problème? C'est Hachem. Donc Dieu il m'envoie un problème, et moi je veux voir un tzaddik pour lui demander quoi ?
Il intervient dans le cas de Hachem.
J'ai compris, mais est-ce que quelque part, c'est pas un manque de emouna ? Ça veut dire, est-ce que quelque part tu penses pas qu'à Kadosh Baruch Hu, si t'as envoyé l'épreuve, c'est qu'il sait que l'épreuve est pour ton bien, et donc ne va pas demander à un tzaddik de te l'enlever ?
Mais si on a un problème,
c'est pas logique.
Surtout que, comme on avait dit la dernière fois, qu'en vrai, lui-même, s'il veut y travailler, il pourrait savoir la solution.
Exactement. D'accord, on a juste commencé, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui.
Et après, si on lui explique à lui.
Non,
voilà. Il t'a comprendre le message.
Exactement. Tu as raison. Mais en général, les gens, quand ils vont voir les tzadikim, ils vont pas voir les tzadikim pour lui demander, écoute, j'ai une épreuve, je suis prêt à garder l'épreuve, mais explique-moi l'épreuve. Non, il vient voir pour que tu dises, enlève-moi ce truc-là de la tête.
Tu comprends le message, t'as peut-être un indice sur la solution.
J'ai compris.
Mais il t'aide.
Quand tu vas voir un tzadik, exactement, il t'aide à accepter l'épreuve. C'est vrai. Mais concrètement, moi, quand je vais voir le tzadik, pourquoi je vais voir le tzadik?
Pour la solution.
Pour que je veux qu'il m'enlève le problème. Dis, mais quelque part, est-ce que c'est pas un manque de emouna? Ça veut dire, oublions le fait qu'on n'a jamais vu ça de tous les temps, de l'époque de la Mishnah de la Gemara. Oublions ça.
Non, mais le concept là, c'est si tu vas voir un tzaddik, alors que c'est pas pour une question de Torah ou autre chose, c'est vraiment pour un problème perso.
Voilà.
C'est ça
le problème. On bloque sur ça. Bah, parce que, aller voir un tzaddik pour une question en Torah, aller voir un tzaddik pour demander une bracha, ça, on l'a vu de tous les temps. Mais aller voir un tzaddik pour demander un conseil sur quelque chose de physique, de matériel, qui n'a rien à voir avec le domaine d'un tzaddik, ça n'a rien à voir. Comme on l'a dit la semaine dernière, c'est comme si je vais en pharmacie et je vais demander une baguette. Quel rapport ? Il va dire, écoutez, je veux bien vous aider. La pharmacie, je connais parfaitement. Je peux vous donner ce que vous voulez. D'accord ?
On va dire, c'est là, bah,
non, mais des fois, t'as affaire à un bac plus 30 qui peut t'aider dans
la préparation de la baguette.
Au niveau d'un conseil quelconque.
Alors, ce qu'on a dit la semaine dernière, alors on a dit quoi ? Ça veut dire quoi ? On va voir le tzaddik parce qu'on se dit, comme il a de l'expérience, alors peut-être il va me donner un bon conseil.
Non, mais le matériel est lié au spirituel.
On va voir tout ça.
Il va t'aider à réfléchir.
Donc, à mon avis, c'est un manque d'emouna.
Serge, a priori, Serge a raison. Non, ce qu'on va dire ici. D'accord. Si, parce que regardez. Ach Haemet, on va reprendre depuis Ach Haemet. On a fait les quatre premières lignes déjà la semaine dernière. On va le reprendre. On va voir.
En fonction des preuves.
Des fois, tu poses la question à un pote à toi.
Est-ce que, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a dit que c'est un aveu d'impuissance. Moi, j'aurais dit peut-être le contraire. J'aurais dit peut-être le fait de ne pas vouloir demander de l'aide, c'est un abus d'orgueil. Ça dépend de quel côté tu vois la chose. C'est compliqué, c'est très compliqué, c'est une question compliquée qu'on se pose ce soir. On va devoir se concentrer. D'accord ? C'est-à-dire que là, il touche à un problème fondamental. Il dit, pourquoi on me pose des questions ? C'est l'Admor HaZaken qui a pas dit, pourquoi on me pose des questions qui n'ont rien à voir avec mon domaine ? Moi, je suis un homme de Torah, moi, qu'on me laisse tranquille avec tout ça. D'abord, on n'a jamais vu ça, et en plus, deuxièmement, quelque part, c'est un manque d'emouna. En fait, on va expliquer ce qu'il dit ici. Donc, Ach Haemet.
Dépêche-toi.
Bonsoir. Ach Haemet, Agid, et ton père. Hein,
il pas là, parce qu'il était très actif au cours de la dernière.
Ah, tu lui répéteras. Ah, Ahemet, Agid, le Shomimli. Donc, on est à la page. On est à la page 267. Donc, en bas de la page. Ah, Ahemet, Agid, le Shomimli. Donc, dit l'Admor HaZaken, je vais dire maintenant la vérité à ceux qui m'écoutent. Ça veut dire qu'il va dire, Behemet, ce qu'il pense, le problème d'Emouna qu'on vient de dire. Ve inehi, ksut, qui ava me kalkelet ashura, pardon. Ve inehi, ksut naim, shalulirot Ahemet, merov avatam, le chayagou. Je vais vite parce que j'ai expliqué ça à l'oral. Les Shem Shamaim l'avod bo et Hashem berishve esh veshal evek de la mavat Hashem et Hashem valken etev chara laem betzar aguf chaz veshalam Hashem irachem. Il dit qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi on vient me voir? On vient me voir parce qu'on est dérangé par un problème. Tellement on est dérangé par un problème qu'on n'arrive plus à continuer. D'accord? Ça veut dire que des fois une personne a un problème, des fois on arrive à faire le tri. On arrive à dire j'ai un problème. Bon, c'est pas grave, je vais continuer à vivre. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Il y a des fois des problèmes sur lesquels on arrive à continuer à vivre, à continuer à se lever le matin, à continuer à faire notre journée, à continuer de s'occuper de notre parnassa, de nos femmes, de nos enfants, même qu'il y a un problème. Mais des fois, le problème, il est trop grand. Le problème nous énerve. D'accord? C'est-à-dire que le problème t'énerve, ça veut dire que le problème, tu n'arrives plus à le maîtriser. Et donc, il dit, l'Admor HaZaken, il dit, je vous en veux pas, j'ai compris que si vous venez me voir, c'est parce que, bien sûr, vous savez que c'est un Kadosh Baruch Hu et qu'il vous envoie certainement que c'est pour votre bien, mais vous avez du mal à supporter ça, c'est trop compliqué. Comment comme vous avez du mal à supporter ça, vous venez me voir. Donc il dit, on devrait se poser la question maintenant. Est-ce que quelque part c'est pas un manque de emouna? Ach ma vira maldatam lechated ragleem meir leir lishol etzot merachon. Il dit alors qu'est-ce qui se passe? Une personne comme ça, Dieu préserve qu'elle ait des soucis dans la famille, que Dieu fasse ça n'arrive à personne, d'accord? Il va commencer à marcher de ville en ville pour aller voir un rabbin. Il va lui donner une bénédiction. Et après on rentre dans la spirale des rabbins. C'est ce qu'il dit, c'est ses mots. Ça veut dire, après, il va aller voir un rabbin, après un autre rabbin, après un autre rabbin. Il dit, on tape à toutes les portes, peut-être qu'il ne marchera. Mais il te dit, mais attends, mais au lieu de taper à toutes les portes, est-ce que tu as essayé de taper à ta porte? Essaye de comprendre, peut-être qu'il y a un message que tu veux te faire passer. Peut-être.
Mais c'est comme une douleur.
J'ai compris. Il n'en veut pas, il dit, attention, je ne vous juge pas. Il dit, je ne juge pas que ça arrive.
Tu arrives à réfléchir.
Il pose la question, il dit, Dieu,
ça lui prend la tête,
il est conscient, Dieu, qui t'a envoyé cette épreuve. Il est conscient que t'as envoyé cette épreuve et que, probablement, il y a un message qu'il veut t'envoyer. Je sais pas si tu vas le comprendre, tu vas pas le comprendre, mais il y a un message. Et nous, qu'est-ce que se retrouve? On se retrouve, au lieu de se concentrer, comme on a dit la semaine dernière, à la solution du problème, on est en train d'essayer d'enlever le problème. Sans se dire que, maintenant, à quoi ça sert de contourner le problème? S'il y a un problème, il faut le régler. Alors tu vas aller voir un rave, après il va y avoir un autre. Ça, on connaît beaucoup de gens comme ça. Ils rentrent dans la spirale, moi j'appelle ça la spirale des rabbins. C'est-à-dire qu'après, ils vont faire tous les rabbins qu'ils connaissent. Tous. Ils vont aller en Israël, 1, 2, 3, 4. C'est une grande émouna. D'accord? Mais d'après l'Admor HaZaken ici, il te dit quelque part, hein, des fois tu peux aller voir 1000 rabbins, sans te poser la question à toi, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Parce que tu dis, il y a un problème, on va aller voir les docteurs. Attends, doucement, avant d'aller voir les docteurs, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu veut m'attendre de moi ici?
On se la pose la question, mais comment tu veux...
Dis-moi, il n'y a pas de rabbins qui vont lui dire exactement la même chose et ça ne va pas le faire travailler sur le...
Bah oui, mais le problème, c'est qu'après, on rentre dans cette spirale.
Mais c'est un consensus.
Parce qu'après, alors après, tu comprends, t'en as un qui va dire quelque chose, ça ne te plaît pas. Tu dis, non. C'est ça ce qui se passe. Tu sais combien de personnes ça arrive comme ça?
Ouais, mais si tous les rabbins lui...
D'accord? Non. C'est vrai, c'est la vérité. Moi, quand tu entends quelque chose que tu veux pas entendre, tu vas aller taper à la porte, qu'est-ce que tu vas entendre? Bah oui, c'est malheureusement c'est comme ça.
C'est comme tu vas avoir un médecin qui te donne un avis défavorable, tu vas avoir un...
Exactement, voilà. Donc, comme très souvent,
alors, il y a à dire, pose-toi la question à toi et qu'est-ce que t'attends?
Très souvent, des fois, les gens, ils allaient poser des questions au rabbi. Et le rabbi répondait...
Ouais, mais ça, c'est pas pareil.
Très souvent. Non, mais c'est un peu la même chose. La même chose.
Deux avis.
Très souvent, les gens, ils allaient poser des questions au rabbi, et le rabbi leur dit, vous êtes sûr que vous voulez écouter la réponse?
Non, mais ça fait peur, ça.
Non, mais c'est vrai, ça veut dire, si je vous donne la réponse, vous allez écouter, parce que sinon, c'est dommage pour vous et pour moi, quoi.
Non, mais ça fait peur, si le rabbi
dit. Ah oui, bien sûr, hein.
Alors, ça veut dire quoi, il donne pas de réponse?
Non, ça veut dire qu'il dit, écoute, je veux donner la réponse, mais...
Assis-toi.
Il faut que tu sois prêt à l'accepter. Parce que si, des fois, on veut entendre une réponse. Par exemple, une personne, il est malade, il va avoir 20 docteurs, il veut qu'il y ait un docteur qui lui dit, c'est rien, ou bien on a trouvé la solution. Maintenant, les 19, ils ont dit, il n'y a pas de solution. Il attend qu'il y ait un docteur qui lui dise, monsieur, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. C'est parce qu'il y a un docteur qui t'a dit que tu vas t'en sortir. Tu comprends? Donc, il faut essayer de voir autre chose. Peut-être que je dois me poser la question à moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant? J'ai pas dit que j'ai trouvé la solution, j'ai pas dit ça. J'ai dit que, avant de taper aux portes des autres, je dois d'abord taper à ma porte. Me dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a quelque chose. Dieu fait pas les choses par hasard. C'est ce qu'il va expliquer aujourd'hui. Donc,
Comment on peut trouver ça?
C'est une bonne question, ce qu'on va développer aujourd'hui. Déjà, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer d'accepter que tout ce qui nous arrive ne peut être que pour notre bien. C'est déjà un grand pas, ça. D'accord? Non, c'est pas seulement, non, quand la cavale est tova, c'est facile, ça, c'est quand t'as raté une sortie d'autoroute, tu dis bon, quand la cavale est tova. Là, c'est, d'accord? Là, c'est une personne, d'accord, qui tombe malade, ou Dieu préserve qu'il y a quelqu'un de sa famille qui tombe malade. Tu comprends? Tu lui dis Gamzou le tova, il dit non, désolé. Je t'en parle l'autre jour. Bah oui, c'est compliqué. Ce qu'on va développer ici. C'est déjà un grand, si on arrive déjà à comprendre ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est déjà un grand pas. C'est-à-dire que là, maintenant, il essaie d'expliquer au chassidim qu'avant de venir me voir, essayez de faire un travail chez vous. Et ça, au moins, ça, c'est une chose qu'il a réussi, l'Edmond Razaken. On a dit que les chassidim continuaient à le voir, même pour les deux problèmes matériels, mais une chose qu'il a réussi, l'Edmond Razaken, c'est que les chassidim, des fois, ils attendaient 2-3 ans avant d'aller voir le rabbi. Pour être sûr, d'abord, est-ce que j'ai pas trouvé la solution tout seul? Est-ce que j'ai pas trouvé la solution tout seul avec les gens qui m'entourent, avec ma femme, mes enfants, d'accord? Avec l'aide locale. Et après seulement, on allait voir le rabbi. Parce qu'ils ont bien compris cette idée que l'Edmond Razaken va expliquer ici, qu'avant d'aller chercher de l'aide extérieure, il faut d'abord voir est-ce que tu peux pas le régler intérieurement. Parce que la meilleure personne qui peut le régler, c'est de l'intérieur. Chez Chassidim, on donne un exemple. On dit c'est comme un coq. Vous avez déjà vu un coq qui est sale? D'accord? Un coq qui est sale. Essaye de le nettoyer. Tu enlèves, tu défais une plume, tu défais une autre plume, tu le nettoies. Ça prend des heures. Le coq, en un coup d'aile, il a tout nettoyé. Il a de la poussière, il a du sable, tout ce que tu veux. Toi, essaie de le nettoyer. Ça va te prendre des heures. Lui, en un coup d'aile, d'accord? En un coup d'aile, pshk, ça y est, c'est fini. Vous savez, des fois, on voit quand on voit, d'accord? Non, mais on a déjà, je sais pas si vous voyez, c'est, vous avez déjà vu quand on va voir dans les poulets, etc., on voit les coqs, des fois, à certains moments, on les voit, ils bougent les ailes comme, ils se nettoient.
Ce qu'on appelle faire le beau, dans les...
Ils se nettoient, ils enlèvent la poussière qu'il y a sur eux. Ben ça, si moi je devais le faire à leur place, ça m'aurait pris des heures. Lui, le faire en une seconde. Et chez Chassidim, on utilise cet exemple-là pour dire, un exemple physique, pour dire que quand quelqu'un fait les choses à ta place, c'est-à-dire quand tu attends que les autres font les choses à ta place, ils vont peut-être réussir, mais ça va être très très long, et qu'est-ce qu'ils vont réussir, et c'est très très long. Alors que quand moi je décide de régler le problème, je peux le régler beaucoup plus vite. Mais il faut décider de le régler. C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Alors. Velo Shaou, El Hashem, la Shuv Ela, Verouach Nemoucha, Verta Taguf. Il dit d'abord numéro 1. Si à Kadash Baoron on voit une épreuve à une personne, et on a tous des épreuves, qui n'a pas eu d'épreuve dans sa vie? Ou qui ne connaît pas, ou du moins des gens qui ont eu des épreuves? Il dit, déjà une première chose qu'on a vue dans la Gemara de tout temps, c'est quoi? C'est d'accepter l'épreuve. Là, je réponds à ta question, Michael. D'accord? Ne lui laisse pas devant, le beau. Voilà. Ah, tu vas manger Vassari. Ben les mots, regardez. J'ai tourné la page. On va. Ben, vous savez quoi? On va prendre la page. Un beau taille. On va prendre la page 268. On est à la page 268. J'ai tourné la... Voilà, non, parce qu'il m'a demandé la page. Donc il dit déjà la première chose, avant même d'essayer de trouver le message que Dieu veut te faire passer, déjà la première chose c'est d'accepter l'épreuve. C'est quoi accepter? Ça veut dire quoi accepter? Accepter, ça veut dire accepter qu'il y a une raison et que c'est pour mon bien. Pourquoi j'ai du mal? Pourquoi je me sens pas bien et comme vous avez dit tout à l'heure, ça me prend la tête? Parce que j'ai pas accepté. Je n'accepte pas. Quand on accepte quelque chose, c'est beaucoup plus facile. C'est comme ça. L'acceptation. J'ai pas envie de développer ça, mais parce que c'est le mois de Nissan, mais une des premières choses qu'on fait, Dieu préserve, quand on perd quelqu'un de sa famille, d'accord, une des premières choses, qu'est-ce qu'on fait au cimetière? D'abord, qu'est-ce qu'on fait comme bracha, juste quand on a entendu qu'on a perdu quelqu'un de sa famille? Baruch atah Hashem Elokeinu Melech haolam, avec tous les bracha, Dayan Ha'emet. C'est quoi Dayan Ha'emet? Le juge de la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de dire en vérité? Que Dieu a jugé, que moi je comprends pas ce que Dieu a jugé, d'accord? Mais que la vérité, c'est ce qu'il fallait faire et que ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Attendez, mais ça, là, on le dit qu'en deux mots. Voilà, exactement, on le dit qu'en deux mots. Quand on arrive au cimetière, au moment de l'enterrement, on ne le lit pas le mois de Nissan, mais toute l'année, quand on fait l'enterrement, on fait ce qu'on appelle le Tzidouk Adin. C'est une cérémonie qui dure mais quelques lignes, et dans tous les enterrements, il y a ça, à part ceux qui sont faits au mois de Nissan, et même ceux qui sont faits au mois de Nissan, on récupère après. Donc, il y a une procédure qui s'appelle Tzidouk Adin. C'est quoi Tzidouk Adin? Ça veut dire que, on va traduire, din en hébreu, ça veut dire le jugement. Tzidouk, dans le mot tzidouk est le mot tzedek.
Droit.
Alors, c'est la même chose que Dayan Ha'emet, seulement c'est en plus long. Ça veut dire que c'est une tfila dans laquelle on va dire à Kadosh Baruch Hu, d'accord, on accepte ce que tu as fait, tout ce que tu as fait c'est pour le bien, et on est Mekabel Be'ahava. Il y a une phrase là-bas qui est très forte qui dit, on accepte à Kadosh Baruch Hu ce que tu as fait par amour. Comme vous avez dit, heureusement que les gens, ils comprennent pas ce qu'ils disent. Mais c'est les mots qu'on dit. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de rabbins qui traduisent ça en français. Écoutez une fois la traduction de ce qu'ils vont dire, vous allez voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Il est en train de porter vous. D'accord?
Ils disent. T'as plus le choix, là.
Non, c'est pas que t'as plus le choix.
Si t'as oublié l'humour,
tu prends ta claque, tu pleures. Il te dit non.
Tu
pleures avec le sourire par amour.
Mais c'est là où la
boule.
Vers Dieu, c'est souvent à ce moment-là qui revient.
Ah pourquoi? C'est quoi le pchat?
Il y en a qui pleurent.
Ah oui, la Ashkaba.
Ils ne comprennent pas, et quand tu la traduis...
Ouais, lisez une fois la traduction de la Ashkaba.
En même temps, ils sont rassurés, parce qu'on leur dit que...
Franchement, c'est...
Donc, puisqu'on parle des épreuves, il te dit... Quelqu'un qui vient me voir pour une épreuve, il dit pourquoi il vient me voir pour une épreuve? Parce qu'il n'a pas accepté que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc le problème est chez lui. Il faut d'abord régler le problème. C'est quoi le problème? J'ai pas dit qu'on va trouver les solutions, que je vais réussir à comprendre le message que Dieu veut me faire passer. Avant même d'arriver là. Déjà, numéro 1, d'accepter que ce qui m'arrive vient d'Akadosh Baruch Hu. Et que ça, c'est pas venu par hasard, c'est pas le hasard qui a fait ça. C'est ça le problème. Alors bien sûr, le dire c'est facile. Mais quand il y a un problème qui arrive, être capable de dire, ce problème c'est Dieu qui me l'a envoyé pour mon bien, c'est très dur à le dire. C'est très dur à dire ça. Bien sûr, quand on lit dans un cours, quand on parle sur quelqu'un d'autre, on dit oui c'est Mina Shamay, comme on a dit tout à l'heure, Kol Hakava Letova, c'est facile à dire.
Ça veut dire
tout empêchement est pour le bien. D'accord? Mais ça c'est facile à dire, c'est facile à dire quand c'est un petit empêchement, mais quand c'est un grand empêchement, est-ce qu'on dit la même chose? C'est compliqué. D'accord? Alors, il va nous donner maintenant des exemples. Il dit Ukmo comme l'exemple. Donc là, je suis au nouveau paragraphe. Ukmo comme Avrahaman. Imaginez Akadosh Baruch Hu comme un père miséricordieux, Chacham, intelligent, Vetzadik et juste. Donc, retenez ces quatre définitions qu'on a dit. Un père miséricordieux, intelligent et juste. Parce que il y a plusieurs. D'accord? Pourquoi? Parce que s'il manque une des quatre définitions, si par exemple c'est pas ton père, tu peux dire bon, il a, d'accord? Il y en a quatre.
Lequel?
Père, miséricordieux, le père aussi. D'accord. Père, miséricordieux, intelligent et juste. S'il manque une de ces quatre qualités, tu peux dire bon, c'est un rebar, il a pas fait attention à ce qu'il a fait. Soit parce que c'est pas son père, soit parce que il a pas pitié, soit parce qu'il est pas intelligent, il fait une bêtise, ou soit parce qu'il est pas tzadik, il est pas juste. Donc il fait, par exemple, il va punir un enfant alors que c'est l'autre enfant qui a fait la bêtise. Mais à Kadosh Baruch Hu, il a les quatre en même temps. C'est un père, miséricordieux, intelligent et juste. Une personne qui a ces quatre qualités en même temps peut pas faire de faute. Est-ce que vous me suivez? Nous, pourquoi on fait des erreurs avec nos enfants? Pourquoi des fois, par exemple, je vais frapper mon enfant, par exemple, alors qu'en vérité, il ne méritait pas? Parce que peut-être au moment où je l'ai frappé, j'ai pas utilisé ma chorma. Mais quand à Kadosh Baruch Hu, on te dit qu'il a les quatre en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur chez Kadosh Baruch Hu. Av, un père qui est miséricordieux, qui est intelligent et qui est tzadique. Amaké Beno, maintenant imaginez ce père qui est parfait, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire d'erreur. Amaké Beno qui frappe son fils. Dieu c'est notre père, imaginez un père qui frappe son fils.
Il a des bonnes raisons.
Alors, qu'est-ce qu'il va faire le fils maintenant? Vous savez ce qu'il te dit ici? Il te dit, imagine-toi maintenant le fils, il va se mettre à courir pour aller chercher de l'aide. C'est qu'il n'a rien compris. Il a rien compris au message que le père voulait lui dire.
Non, sinon ça veut dire parce
qu'il a fait une bêtise. Il va courir chez qui? Il va courir chez
sa mère. Sa mère. Il a fait une bêtise, il va se confier à sa mère ou bien lui dire.
Hein? Ou à la police. Bon, ça c'est c'est moderne ça. C'est
bien.
Hein? Ah ça y est, c'est. Enfin, mon beau-frère, il a remplacé un professeur à New York dans une école. Et à un moment, tu entends, c'est une vraie histoire, je vous le raconte. Mon beau-frère, une fois, il a remplacé un professeur aux États-Unis dans une école. Et à un certain moment, bon, il y a un enfant qui se comportait pas bien. Alors il a dit arrête. Il a commencé à lui crier dessus. Il a dit arrête, calme-toi, etc. Et toute la classe ensemble, ils se sont mis à crier 1-800. Donc parce que là-bas, c'est tout avec les 1-800. Ouais. C'est comme 0-800. 1-800, enfant abusé. 1-800, enfin, tout sur les tables comme ça. C'est comme ça, même dans la tête des enfants, c'est rentré dans leur tête. Ça veut dire du style, attention,
laisse. Non, tu veux plus, si t'es propre et tu veux plus crier soin.
Alors.
C'est fini, y'a que ça qui
marche. Revenons à notre sujet. D'accord? Donc, imaginez ce père. Ce père qui est miséricordieux. Donc, un père miséricordieux, qui est intelligent et qui est juste. Ça veut dire un père qui fait pas d'erreur. Il frappe son fils. S'il frappe son fils, c'est que forcément, il y a une raison. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Si le fils est intelligent, bien sûr, s'il est bête, il est bête. Mais si le fils est intelligent, Shein le ben chacham, la for oref lanous. Le fils intelligent, il va pas tourner le dos pour se sauver, l'imtsolo Ezra, pour trouver de l'aide, ou encore pire, ou afilou, melit yosher, l'ifne aviv arachaman vatsadik vachasid, ou bien encore mieux, qu'est-ce qu'il va faire? Là maintenant, il te dit, il y a trois réactions possibles chez cet enfant. Ce gamin qui a pris une... il sait que son père lui veut son bien. Trois réactions possibles. Première réaction, il accepte la claque, il comprend, il se dit, bon, si j'ai pris un coup, c'est que, faut réfléchir. Peut-être j'ai pas compris pourquoi j'ai reçu un coup, peut-être qu'il aurait dû parler avec moi, etc. Mais bon, en tout cas, j'ai compris qu'il y a un problème. Deuxième réaction, c'est le fils qui va aller chercher de l'aide contre son père. Ça, c'est Khlet, d'accord? Troisième réaction possible, c'est quoi? C'est le fils, alors c'est un peu différent ça, qui va essayer... Non, écoute bien. Non, ça c'est deuxième ça. C'est quoi troisième réaction? C'est le fils qui va essayer de justifier le comportement de son père. C'est-à-dire qu'il va aller voir des gens pour essayer de dire « Oui, mon père il a fait ci, parce que tu comprends, il était fatigué avec la journée de travail, etc. » Ça veut dire quoi? Il va essayer, caviarol si on peut dire, de dire que son père n'est pas si tout puissant que ça. D'accord? Donc il va aller, quelqu'un va dire, écoute, tu sais, ton père, il est fatigué, il a beaucoup de travail, il faut pas lui en vouloir. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il te dit ici? Il te dit, les deux derniers sont mauvais.
Mais oui.
Pourquoi ils sont mauvais? Parce que, si t'as reçu un coup, au lieu de te poser la question, je vais aller voir de l'aide dehors pour demander de l'aide, ou bien, je veux pas demander de l'aide, mais je vais essayer de me dire que j'avais raison et que mon père, c'est un tocard, excusez-moi du terme. C'est un peu ça ce qu'il est en train de faire, parce qu'il va aller voir quelqu'un d'autre qui va lui dire, écoute, ton père, bon, il est fatigué.
C'est pire.
D'accord? C'est pire, mais c'est-à-dire que t'as rien compris. Ça veut dire que t'as rien compris. C'est-à-dire que t'es bête. Là, on le comprend. Quand on parle d'un enfant et d'un père, on le comprend. Bah, il te dit que c'est exactement avec la tête de Jbarouchou. C'est la même chose. J'ai pas dit que le fils, il comprend pourquoi le père l'a frappé. Ça, j'ai pas dit ça. Des fois, le fils, il comprend pas. Mais au moins, il sait, au plus profond de soi-même, que si Akadosh Baruch Hu l'a envoyé, ça veut dire que c'est pour son bien. Et ça, accepter ça, c'est déjà énorme. Si on avait, plus tard, Antania, il dira que si les gens acceptaient ça, on n'aurait eu aucun problème dans Avodat Hashem.
On veut savoir ce qu'on a fait.
On aurait gagné de Tzara à plat de couture.
Que...
Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'un fils, il comprend toujours? Alors, moi, je vais poser une question. Déjà. Honnêtement, est-ce qu'un fils, il comprend toujours pourquoi son père le punit?
Non.
Honnêtement, dis-moi honnêtement. Un matin, le fils, il veut pas aller à l'école. Il veut pas aller à l'école. Ça lui prend la tête. Ça lui casse les pieds. Il veut rester au lit. Il veut rester la journée à la maison, jouer, je sais pas ce qu'ils ont à la maison. D'accord? D'accord? Son père, il lui dit, lève-toi, je t'ai dit. D'accord? Et si tu te lèves pas, attention à toi. Est-ce que tu crois que le fils il comprend? Tu dis pourquoi tu es allé à l'école? Tu dis parce que tu comprends, tu devras travailler, putain, etc. Tu lui prends la tête, il en a rien à faire ce que tu lui as raconté. Il en a rien à faire ce que tu lui as raconté. Mais pourquoi il va t'écouter? Alors là, t'as les trois options. Parce qu'il sait que son père veut son bien. Il sait que son père veut son bien. Tu comprends? Mais si le fils il va aller voir sa mère pour lui dire maman, papa, il m'a dit ça, essaie de le convaincre, etc. C'est-à-dire qu'il a rien compris. Ah bien sûr, des fois on peut faire des bêtises. Mais là il te dit, imagine-toi que le père c'est Akadosh Baruch Hu, le fils c'est nous.
Aujourd'hui c'est comme ça, à l'époque c'était pas comme ça.
Qu'est-ce qui était pas comme ça?
Tu levais la main sur ton fils, il prenait un coup.
Alors c'est un bon point ce que tu vas dire.
Il allait pas se perdre.
Très bon point ce qu'il dit. Ouais. Bémet il va expliquer plus tard dans la suite.
Et le conjoint ne discréditait pas.
Il va expliquer, c'est ce qu'il va expliquer.
L'histoire de ton beau-frère.
Rappelez-vous.
Quoi, il t'a frappé ton père, mais...
Non, mais l'histoire de son beau-frère.
Oui, exactement, bah oui. Mais attends, ce qui est à New York, ça arrivera ici dans 10 ans.
Il y a une génération ou deux, jamais ils auraient fait ça, les gosses. Hein.
Alors voilà, David, je vais t'expliquer. Tu as un très bon point ce que tu dis. En vérité, plus tard, l'Admor HaZaken, avec cet élément que tu viens de dire, il va répondre à la question qu'on a posée le cours dernier. Comment ça se fait qu'à l'époque de la Gemara, on n'allait pas demander aux tzadikim des problèmes matériels? Il va dire pourquoi? Parce que justement, écoutez bien, c'est une très bonne question qu'il a posée. Parce que... Ah non, attends, mais là, on va le développer, là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, à l'époque... Ils arrivaient à accepter.
Voilà.
Comme ils arrivaient à accepter, ils avaient moins le besoin d'aller raconter un tzadik. Parce qu'ils arrivaient à accepter. Aujourd'hui, c'est quoi notre problème? C'est qu'on n'arrive pas à accepter. C'est que notre orgueil est tellement grand qu'on n'arrive pas à accepter. Parce que c'est un bras de fer entre Dieu et moi. Dieu a fait quelque chose que lui, je suis en vérité, on est tous d'accord qu'en vérité, si on regarde de manière absolue, c'est sûr que si Dieu l'a envoyé, c'est pour mon bien. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est pas pour mon bien. Donc c'est un bras de fer entre Dieu et moi. Je l'appelle pas comme ça parce que j'ai honte de dire que je fais un bras de fer avec Dieu. Mais en vérité, c'est ce qui se passe.
C'est ça.
Si on le voit de manière objective, c'est ça qui est en train de se passer. C'est Dieu a décidé quelque chose pour moi. Moi, je dis non, c'est pas bien pour moi. Donc j'ai fait un bras de fer avec Dieu.
C'est pas forcément ça que je dis.
Ah si, c'est ça.
Non mais indirectement, c'est ça.
Indirectement, c'est ça.
C'est pas ça que je dis.
Je vais pas te l'avouer.
En réalité, Dieu a décidé pour moi.
J'essaye de trouver une solution pour contourner.
Alors, donc, c'est, la même chose. Tu m'as dit la même chose.
On n'est pas là pour tricher.
Non, mais il faut être honnête. Moi, il parle pour nous, hein. Ne vous inquiétez pas, on est tous concernés par ça. C'est la nature humaine, c'est comme ça. C'est le travail de toute une vie. C'est quand on peut rien y faire.
C'est-à-dire, si tu vois un rondin et que tu vas avoir un, si tu as un rondin dans ta vie devant toi qui t'empêche d'avancer et que tu ne sais pas pourquoi ce rondin il est là devant toi,
oui.
Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait devant toi,
oui.
Tu ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, tu sais même, on t'a dit que c'était.
Mais est-ce que tu as accepté que c'est pour ton bien?
Non, ok.
Non, mais non.
Si tu l'as accepté, tu ne fais pas.
Si tu as accepté, ça ne te dérange plus.
D'accord, mais il est là, il t'empêche d'avancer. Ça te dérange plus, ça veut dire que t'as changé de direction.
Oui, mais ça veut dire dans ce cas, tu l'as accepté. Si tu l'as accepté, c'est déjà énorme. Si dans ce cas-là, c'est celui qui pense. Alors, je vais vous dire tout de suite. Celui qui pense quand il a une épreuve, il accepte déjà, il peut se lever et partir. Ce qu'on ne le concerne pas aujourd'hui. Non, mais je suis sérieux.
Il faut qu'il fasse quelque
chose. Mais je pense qu'on est tous concernés par ça.
Non, mais s'il a une épreuve, il faut qu'il fasse quelque chose quand même. Il peut pas rester comme ça.
Même s'il accepte.
Non, avant même de passer à l'acte. C'est ce qu'on fait, regarde, quand tu perds quelqu'un, Dieu préserve. Comme David, il a dit, bon, après, il n'y a plus rien à faire. Non, mais non, ça change pas. Bien sûr, c'est un bon exemple. Parce que maintenant, la question que va se passer, c'est comment les hommes, comment les vivants vont vivre la situation? Est-ce qu'ils vont le prendre comme une claque et du coup, ils vont déprimer? Ou est-ce qu'ils vont dire, on accepte, c'est pour notre bien, on se tait, on avance? Très dur! C'est très très dur.
Malheureusement, de nos jours, la majorité, au contraire, c'est ce qui fait revenir. La plupart qui vont demander justement, ils viennent voir un rabbin, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre, et ils acceptent, au contraire.
Non, c'est pas la même chose.
D'un décès,
ils pas.
Normal. Là, c'est des lois.
Si tu parles d'un décès, non, ils acceptent pas.
Les gens acceptent. Pourquoi ils font tout ça?
Non, parce que c'est normal, parce que quand tu vois la mort devant tes yeux, alors tu te dis, ça peut m'arriver à moi aussi. Il faut être honnête.
Donc ils acceptent.
Non, ils acceptent pas. Donc ils se disent, bon, si je veux pas que ça m'arrive, j'ai intérêt à faire des efforts. Ou bien, en plus, quand tu vas lui dire que c'est pour le bien de la Neshama, etc., ce truc-là, c'est très bien pour la... ça console une personne. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai accepté ce qui s'est passé? Non, pas forcément. Très compliqué d'accepter. Accepter, ça veut dire ne plus être dérangé. Alors, je vais vous donner... Vous savez ce qu'on accepte? Par exemple, nos défauts. Nos défauts, on avait fait un cours une fois sur ça. Ça fait 2 ans, on avait fait un cours sur ça. On a dit que nos défauts, on les accepte. C'est pour ça que, par exemple, je sais que, mieux que tout le monde, je connais mes défauts.
Bah non, on les voit pas, nos défauts.
D'accord, attends, doucement. Quand quelqu'un me dit... Alors, soyons honnêtes, d'accord pas, non, quand quelqu'un me parle d'un défaut, il dit, regarde, tu as ce défaut. Je me retiens de lui dire, mais attends, t'as pas vu ça et ça, moi, je vais te rajouter. Mais tu vas pas lui dire. Maintenant, comment ça se fait...
On voit nos défauts.
Attends, laisse-moi finir.
Non, ce qu'on voit chez les autres, c'est nos défauts.
Comment ça se fait que non, quand... Défauts, je sais que j'ai des défauts. Chacun connaît ses défauts. D'accord? Comment ça se fait que bien que je sais que j'ai des défauts, j'arrive à dormir tranquillement?
Parce que...
Pourquoi je me rends pas fou, je vais pas voir tous les rabbins du monde, tous les docteurs du monde pour leur dire, aidez-moi, j'ai le défaut! Parce que tu l'as accepté! Tu l'as accepté! Comme tu l'as accepté, qu'est-ce qui fait que tu l'as accepté? Ton amour propre! D'accord? Ton amour propre fait que tu as accepté ton défaut. Donc, comme tu as accepté le défaut, le fait de l'avoir accepté fait qu'il ne te dérange plus. Et donc, du coup, tu peux vivre avec. Comment ça se fait que quand il y a certains problèmes, je ne les accepte pas? Parce que, comme, justement, ça me dérange, je ne l'ai pas accepté, et ben, du coup, je vais tout faire pour essayer d'enlever le problème. Ce que j'aurais pas fait pour moi. Les gens, ils vont se plaindre des défauts qu'il y a chez leurs femmes, chez leurs enfants, etc. Alors que eux, ils ont des défauts encore plus grands, mais ça les dérange pas. Le défaut qu'a chez sa femme, ça l'empêche de dormir.
Mais c'est quoi la relation?
Oui, parce que nous, personne ne dit nos défauts. Mais nous,
la relation est très simple, c'est que tout se passe dans l'acceptation. Non, accepter un défaut.
J'arrive pas à voir la relation entre ce que tu nous expliques, Michael,
ça va être fond,
et le et comment ça s'appelle et le fait.
Tu as servi les Chaïm.
La relation entre les deux, j'arrive pas à voir.
De quoi?
L'acceptation et entre quelqu'un en face de Chaïla qui est malade.
Oui.
Bon, il est malade, comme ça ou... Plus ou moins. Je t'ai rien fait. Pas plus ou moins grave.
Je t'ai rien dit, arrête.
Est-ce qu'il doit se dire vraiment? Il est malade, c'est parce qu'il a merdé quelque part.
Non, je rentre pas dans ça encore. Tu rentres dans la solution.
Non, je rentre pas dans la solution.
Je rentre pas dedans encore. Avant même, ça c'est plus tard. Ah. Avant même d'essayer de comprendre le message que Dieu me donne. Parce que c'est possible des fois qu'on ne voit pas le message. Je dis déjà, le fait que tu vas essayer de faire ta spirale de rabbin, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'en vérité, tu n'as pas accepté que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu avais accepté, ça t'aurait moins dérangé.
Mais il a raison, si tu vas voir le rabbin, c'est que tu l'as accepté.
Non,
pas du
tout. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que, comme je t'ai dit, parmi une personne, il sait qu'il a un défaut, qu'il est très nerveux. Il va aller voir les rabbins, tous les rabbins, pour tant que le problème n'est pas enlevé. Ouais, non. Il dort tranquillement. Il va demander de l'aide. Mais il va demander de l'aide, mais en général, ça le dérange pas. Il arrive à dormir tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Ça veut dire que qu'est-ce qui rend un problème grand et petit? C'est l'acceptation qu'on a du problème. D'accord? Donc il dit le problème numéro un qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas. Quand on accepte, automatiquement, ça nous dérange moins. Et quand ça nous dérange moins, on a une relation plus directe avec Akadosh Baruch Hu, sans devoir l'entendre d'un tzadik. Tu vas te dire, tu as ça parce que ça et ça. J'ai pas besoin d'entendre ça. Maintenant, encore une fois, ce que tu as dit, c'est un très bon point. On l'a touché un peu à ça la semaine dernière. Que si aujourd'hui, on a besoin d'aller voir les tzadikim, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus cette puissance. On n'arrive pas. On n'arrive pas à accepter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as besoin d'entendre un tzadik qui va dire, écoute, c'est minashamay, comme si tu ne savais pas. Bon. Il t'a aidé, le tzadik, en réalité, il va t'aider à accepter. À l'époque, ils n'avaient pas besoin de ça. Plus on remonte dans le temps, et moins ils avaient besoin de tzadikim pour accepter les situations qui leur arrivaient. Ils prenaient une claque et disaient, bon, j'ai pas attendu l'autre jour, mais j'accepte, c'est venu d'un kadosh borou, je me tais, j'avance. C'est comme ça. Ça, il te dit ici, c'est très compliqué, mais c'est, normalement, celui qui comprend ça, il comprend que, il n'y a pas besoin d'aller voir un tzadik quand t'as un problème. Du moins, pas pour lui demander un conseil comment enlever le problème.
Mais comment accepte, ça répare?
Comment?
Accepter, ça répare.
Non, j'ai pas dit qu'accepter, ça répare. J'ai dit que le fait même d'accepter fait que ça te dérange moins.
Non, mais ça suffit pas.
J'ai pas dit comment règle le problème, j'ai pas encore dit ça.
C'est pour ça
qu'il donne tout de suite l'image. Il dit, tu as le père, tu as le fils. Le fils qui reçoit la claque de son père et qui va aller chez sa mère pour lui dire, maman, papa, il m'a frappé, c'est qu'il a rien compris.
Oui, mais si,
dit le fils qui va aller voir son oncle et que son oncle va lui dire, écoute, ton père, il est fatigué, il a rien compris. Le fils qui reste à sa place et qui dit, même s'il dit rien, parce qu'il faut, devant son père, il dit rien, mais il montre qu'il a compris le message, lui, il a tout compris.
Mais il peut au début rien dire, il a accepté. Après, il va voir sa mère et dire, mais...
Je comprends pas.
Qu'est-ce que j'ai fait?
D'accord. Ça, c'est déjà un bon point, ça. Dans ce cas-là, ça nous concerne pas, là.
Ah oui, c'est ce que j'ai fait.
Tu as raison.
Il a accepté. Maintenant, il veut savoir.
Dans ce cas-là, il n'est pas concerné parce qu'on est en train de dire ici. J'ai compris ta question. Dans ce cas-là, il n'est pas concerné. Celui qui a accepté, il n'est pas concerné. Là, déjà, on te dit la phase numéro 1, c'est accepter. Après, on va rentrer dans les détails, comprendre ce qui s'est passé.
Mais aller voir un rabbin, c'est accepter d'avoir un problème.
Non.
Reconnaître avoir un problème.
Oui, mais tu n'as pas accepté que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et que c'est pour ton bien. C'est très dur à accepter ça. Très, très difficile.
Comment on peut se rendre compte?
D'accord. Comment on peut se rendre compte de quoi?
Donc ça veut dire qu'il n'a pas l'Emouna.
Est-ce qu'on va dire qu'il n'a pas l'Emouna?
Il n'accepte pas.
On va pas aller jusqu'à là. Ça veut dire qu'il a un manque de Emouna.
Ouais,
manque, on va pas dire qu'il n'a pas d'Emouna.
Oui, un chassid qui va voir le rabbi, il sait bien que le chassid, il n'a pas qu'un problème matériel, c'est un problème spirituel. Donc il veut peut-être que le rabbi lui arrange son problème spirituel pour que ses affaires matérielles s'arrangent.
J'ai compris, c'est un autre point ce que tu veux dire ici. Mais en général, c'est pas la raison pour laquelle on rend tzadik. Je vais te donner un exemple concret. Une personne, Dieu préserve, qui a quelqu'un dans sa famille qui est malade. Il va voir le tzadik. Pourquoi il va voir le tzadik?
Pour qu'il essaye peut-être de...
T'as deux options. Option numéro 1, il a pas accepté la situation. Et il veut que ça s'en aille. Il est pas d'accord de ce qui se passe. Je suis pas d'accord que ça m'est arrivé. Donc je vais faire tous mes moyens pour que ça parte. Ça, c'est pas bon. Mais on est tous concernés par ça, on passe tous par là. Option numéro 2, il a accepté ce qui se passe, il va aller voir un tzadik, comme ce que tu disais tout à l'heure, pour demander conseil comment régler le problème. Mais ça, c'est déjà un très grand niveau, ça. C'est un très grand niveau, ça. En général, quand il y a des grands problèmes, on n'accepte pas. C'est pour ça que la première chose qu'on fait quand Dieu préserve, quand on perd quelqu'un, avant même de penser à faire le kaddish, avant même de penser à faire quoi que ce soit, avant même de déchirer les vêtements, on fait la bracha de la Yana Emet. Pour dire à Kadosh Baruch Hu, c'est la première chose qu'on dit, j'accepte que ce que tu as fait c'est pour le bien, c'est la vérité. C'est parce que c'est plus dur. Il faut le faire tout de suite. C'est très dur. Ça prend des années à comprendre ça. D'accepter ce qui s'est passé. D'accord? On va essayer de développer un peu dans les mots. Alors, toutes les questions que vous posez, ce que je vois dans vos yeux et qu'il y a des grandes questions là.
C'est important de le dire. Non, tu peux aussi le penser.
Parce que, exactement. Parce que le dire, c'est le penser.
Ouais, c'est pour ça. Ouais. Je dis, quelle est la valeur que ça ramène de le dire?
Parce que tu sais, en vérité, ce qui se passe, c'est que très souvent, au moment, Dieu préserve, on a perdu quelqu'un. Hein, on n'est pas très conscient à ce moment-là. Mm-hmm. On fait les choses. Et après, ça nous revient. C'est-à-dire qu'après, ça nous revient. On se rappelle. On dit, ah oui, j'ai dit cette phrase. Mm-hmm. Ah oui, j'ai déchiré le vêtement. Ah oui, je me rappelle, le rabbin, il avait dit ça à l'enterrement. Ça revient après. Et ça rentre. Mais sur le moment même, on ne se rend pas forcément compte. Tu vois ce que je veux dire? Sur le moment même, on est dans les vapes. C'est pour ça qu'on est exempté de toutes les mitzvot. Mais toutes les choses qu'on dit, toutes les phrases qu'on dit, ça se passe très très vite, mais après ça revient. Après ça ressort, tu dis, mais attends, j'ai dit ça, mais qu'est-ce que ça voulait dire? C'est des phrases qui ressortent comme ça. Dieu préserve, on va jamais parler un moment comme ça. Bon, alors on continue. On va reprendre à... Où on en est ici? Allez, venez, on va reprendre à Oukemo. Oukemo, Avrahman, Racham Betzadik, comme un père miséricordieux, intelligent et sadique, Amake Beno, qui frappe son fils. She'ein le ben Racham, la fort rêve l'anus. Qu'un fils qui est intelligent ne doit pas tourner son dos pour courir. Limtsolo Ezra, pour demander de l'aide contre eux, son père. Oafilou, Melitioshir, l'Ifnafir Rahman, Vatsalik Vachasid. Ou bien il va pas chercher un avocat pour aller le défendre devant son père. C'est-à-dire qu'il va pas dire à sa mère, maman, va me défendre devant papa, parce qu'il a compris. Un enfant intelligent, il a compris que son père, il voulait son bien. Seulement quoi? Il dit, Rak seulement, Liot, Yachar, Yechezou, Panemo, Imaviv, Fanim, Efanim. Il dit comme ça, il te dit, quand un père, il frappe son fils, quelle est la réaction naturelle du fils? Il baisse les yeux ou il regarde son père?
Généralement, il baisse les yeux.
Et quelle est la bonne réaction d'après vous? Très intéressant ce qu'il dit.
Bonne question.
Hein?
Souvent, on lui dit, baisse les yeux.
Baisse la tête, voilà, baisse les yeux.
Baisse la tête, on lui dit.
Eh bien, regardez le grand chidouche qu'il va te dire ici. D'accord? Alors, justement. Il va te dire. Tu sais. Écoutez. C'est très important ce qu'il dit ici. Il dit, le regard est très expressif.
Voilà.
D'accord? Écoutez ce que je vais dire, Rabotaï. Le regard est très expressif. Dans le regard, il y a les yeux, mais pas seulement le regard, en général, le visage est très expressif. Si le fils, il tourne le dos au père, c'est-à-dire dès que le père, il lui donne un clac-pat, qu'il se cache dans un coin. D'accord? Ça veut dire qu'il n'ose pas affronter son père pour lui dire, papa, j'ai compris ton message. Si le fils, il reste devant son père, peut-être il baisse les yeux, mais au moins, il reste devant, c'est-à-dire face à face. Ou bien, encore plus fort, mais ça c'est encore plus dur, il regarde son père droit dans les yeux, mais pas dans les yeux, droit dans les yeux du style, oui, tu vas voir. D'accord? Il regarde droit dans les yeux du style, dans les yeux, et qui exprime le fait, papa, j'ai compris que je te fais de la peine, papa, pourquoi tu me fais ça, papa, je veux régler le problème.
Il veut savoir qu'est-ce qu'il veut savoir.
D'accord?
Il veut savoir, tu vois dans les yeux.
Papa, je comprends pas.
C'est un langage que les bébés connaissent parfaitement, ça. Alors.
Mais d'abord, d'ailleurs, il pose la question.
Il a quel âge, là?
D'accord?
Il fait jamais de bêtises, en fait.
Qu'est-ce qu'il est bien élevé? Pourquoi il est puni? Il est vachement bien élevé.
Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait le.
Il te demande pourquoi, le gosse?
Tu frappes l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il court dans sa chambre ou est-ce qu'il reste ici devant? Il baisse la tête.
Pourquoi tu dégages?
Hein, qu'est-ce qu'il fait l'enfant?
Allez, hop.
Tu lui mets une claque, qu'est-ce qu'il fait?
Ah oui.
Tu entends David, qu'est-ce qu'il fait? Tu lui donnes une claque, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il court dans sa chambre? Je ne l'ai pas dit d'aller dans sa chambre. Ou est-ce qu'il reste là et il attend que tu lui dises va dans ta chambre?
Comment il a pris ça?
Non,
parce que
c'est toi qui décide ce qu'il va faire. C'est pas lui qui décide.
S'il court dans la chambre, ça veut dire quoi?
Il fuit.
C'est-à-dire qu'il fuit, qu'il accepte pas. Ou bien qu'il a besoin, ou bien. Qu'il a besoin de calme pour accepter.
Attends, quand il est vexé,
donc il est vexé. Très bien. Alors maintenant, on imagine très bien. Je comprends. Des fois, soit il est vexé, ou soit des fois l'enfant a besoin de calme pour digérer ce qui s'est passé. Maintenant, imaginez, est-ce qu'on peut être vexé d'Akadosh Baruch Hu?
Et on va sauver où, nous?
Vous attisez quoi?
Ouais, on va aller où?
Tu vas pas,
voilà. Tu crois que tu vas aller à Hawaï? Il y a plus Dieu là-bas? À Ibiza, il y a plus Dieu?
On peut pas se cacher.
Si tu prends pas conscience, tu vas pas être vexé.
Je te jure. Des fois, on a envie de se cacher, on peut pas.
Tu vas te cacher ou la raison?
Oui. La claque, tu l'as pris. La claque, tu l'as reçue.
Non, mais tu la reçois, mais ça te donne à réfléchir.
Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est la question que te dit. C'est celui qui va se sauver de la réalité. Du style, il a un problème, il va tout faire pour se sauver de la réalité. Il va dire, c'est comme l'enfant qui va se sauver dans sa chambre. C'est-à-dire qu'il n'a pas accepté ce qui s'est passé.
Pas qu'il a accepté, d'abord, il faut qu'il digère aussi.
Faut qu'il digère, d'accord. Eh ben, à l'époque de la Gemara, les gens, ils prenaient une claque, c'est-à-dire du style, le gosse, il prenait une claque, il restait là devant, il attend, j'attends papa que tu me donnes la suite. Pas l'autre claque, hein. La suite, ça veut dire, comment je fais pour réparer le problème? Et il est là, tête baissée, mais il se sauve pas, c'est-à-dire qu'il accepte le problème. C'est très difficile. Vous savez, puisqu'on s'approche de Pessah, je vais vous donner un exemple pour vous montrer comment à l'époque de la Gemara, les gens avaient une force de caractère beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. À l'époque de la Gemara, il fut un temps dans lequel on ne faisait pas le ménage de Pessah comme aujourd'hui. On faisait un ménage sommaire, d'accord? Et on faisait que le bitoul. C'est quoi le bitoul? Ça veut dire on disait j'annule le chametz, tout le chametz qui reste, j'ai la pitesse devant moi et tout, comme la poussière de la terre.
C'était de la poussière déjà en bas, ils avaient et la terre
battue. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut une force de caractère énorme. Il faut une force de caractère énorme pour voir une pizza devant moi et pour dire c'est de la poussière. Alors que c'est pas de la poussière.
Les souris l'avaient mangé.
Il faut une force de caractère énorme. Cette force de caractère, à l'époque, la Gemara, il l'avait.
Et pourtant, Pessah, pour les gens, c'est Pessah, ils savent, tout le monde sait ce que c'est Pessah.
J'ai compris. À l'époque, la Gemara, ils étaient capables de te dire, pour moi, tout le Hametz qui aurait pu rester, c'est de la poussière. Et dans leur tête, même si pendant Pessah, ils ouvrent un placard, ils voient un morceau de pain, c'est de la poussière. On n'arrive pas, c'est impossible. La Gemara, déjà, à la fin de l'époque, la Gemara, déjà à la fin de l'époque, la Gemara, a dit, de nos jours, on ne sait plus faire. Donc c'est pour ça qu'on a instauré le ménage, etc., comme tout ce qu'on fait aujourd'hui. S'assurer qu'il ne reste plus, de brûler tout ce qui reste, etc. Parce qu'on n'a plus, cette force de caractère. Visiblement, avant, ils avaient une force de caractère de maîtriser leur esprit pour accepter des choses, pour décider que ça, c'est de la poussière. C'est-à-dire, tu maîtrises ta pensée. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Je continue dans les mots. Donc, on continue avec le fils et le père. Donc, Rak, quelle devrait être la bonne réaction du fils? Le fils intelligent, il va pas aller chercher de l'aide pour se sauver de son père. Pour dire, ah, papa, il m'a frappé, je vais me défendre contre mon père. Ou bien, papa, il m'a frappé, je veux quelqu'un qui me défende contre papa. Non! Il a compris. Rak, liot, yachar, yechezou, panemo. Il reste devant son père, pas derrière son père. C'est-à-dire, il donne pas le dos. Donner le dos, quand tu donnes la face à quelqu'un, ça veut dire que tu lui montres que tu veux communiquer avec lui, que tu as compris son message. Quand tu donnes le dos à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand tu donnes le dos à quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est quoi le message que tu lui donnes? Ça veut dire, tu m'intéresses pas. C'est-à-dire, je veux pas parler avec toi maintenant.
Tu m'embêtes.
Donc, ça veut dire, je n'accepte pas ce que tu m'as fait. Quand je reste là, même si je baisse la tête, ça veut dire, j'accepte ce que tu m'as fait, c'est dur, mais j'ai accepté. Quand je me sauve, ça veut dire que j'ai pas accepté. C'est très clair. Donc, panim et fanim, lisbol, akaotav, be'ahav. Alors, c'est très dur ce qu'il y a dans cette lettre, hein. Vous savez, chez Hassidim, on dit que cette lettre, c'est une lettre que presque personne n'arrive à ce niveau-là. Lisbol, akaotav, be'ahav. De supporter les coups avec amour, les tov, le kol, ayamim, et de se persuader que ça m'amènera que du bien à vie. C'est très compliqué. Très compliqué. C'est presque impossible. Mais c'est comme ça que ça aurait dû être normalement. Donc en vérité, c'est la raison aujourd'hui pour laquelle on va voir un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à accepter. Il continue dans les mots.
Comme si on va voir un avocat, là.
Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on va voir un tzaddik. Là, tu vois, dans le cas du père, il a donné deux, non, c'est intéressant ta question. Dans le cas du père, il a donné deux options. Il dit, soit le fils, il va aller chercher de l'aide contre son père, soit il va aller chercher un avocat pour calmer son père. D'accord? Donc c'est la même chose que nous on peut faire avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, j'ai un problème qui est arrivé. Soit je cherche à contourner le problème, à enlever le problème. C'est-à-dire à me battre Kaviarol contre Akadosh Baruch Hu. Kaviarol, c'est ce que ça veut dire. Ou bien soit, je vais aller voir un tzadik pour lui demander, un avocat, pour lui demander de me défendre contre mon père qui m'a donné un coup. Ça veut dire que je n'ai pas accepté. Quand tu prends un avocat pour aller en justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux gagner, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord ou pas? On peut ne pas être d'accord.
Eh bien, dans l'époque, la Gemara, quand on voit dans la Gemara, jamais on a vu que les gens n'étaient pas d'accord. Ça n'est jamais arrivé.
Aujourd'hui, on est rebelles.
Il n'y avait pas. Tu vois plein d'histoires dans la Gemara, même des gens simples, hein. Prenaient sur la tête, bah, qui se taisaient, ils avançaient. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, pas dans le sens qu'ils n'ont pas compris le message. Ça veut dire qu'on avance. Très dur aujourd'hui. Alors, Veiné. Les mala prinat panim, ou aratson ve acheshek, asher avin ou shebashamaim, mashpia le banat koltu volamim. Il développe encore un peu mieux. Serge, t'es avec nous? Il dit. Alors ça, tu as parlé un petit peu de ça, tu nous as mentionné le Rav Dinovitch. Oui. D'accord? Alors tu vas voir, on va voir une notion qui ressemble à ce que tu as dit la semaine dernière. Il dit, on doit avoir le ratson et le cheshek.
Ah oui.
On doit avoir la volonté, et donc, la passion. Je vais expliquer tout ce que ça veut dire. Asher avinu shebashamayim mashpia lebanav kol tuv olamim. Que notre Père qui est dans le ciel, il donne à ses enfants que du bien à vie. La Gemara, elle dit comme ça, elle dit une phrase très simple, elle dit, il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Claire. En, alors je vous lis en hébreu, comme ça vous vous rappellerez en hébreu. En, ra, yored, milmala. En, il n'y a pas ra de mal, yored qui descend, milmala d'en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal qui vient de Chakadosh Baruch Hu.
De mal in fine, tu veux dire?
Oui. Donc, alors voilà, quand il m'arrive quelque chose de mal, c'est moi qui le perçois comme quelque chose de mal. Mais déjà, accepter ce que tu dis ici, arriver à accepter que pour moi je le perçois comme du mal, mais en vérité c'est pas du mal, c'est le plus gros. Le plus gros de l'épreuve, c'est accepter que c'est pour mon bien. Mais c'est très difficile, c'est le plus dur. Voilà, c'est le plus dur. Et ce qu'il va expliquer plus tard, c'est que très souvent, quand on a accepté que c'est pour notre bien, et quand on a compris le message, ça on va voir plus tard, l'épreuve s'en va.
Mais ça,
ouais. Mais ça, c'est autre chose.
Quand
ça,
on va voir plus tard. L'épreuve, la plus d'épreuve.
Est-ce oui.
Que vous dites qu'il y a du mal et que ça soit pas pour du bien?
Impossible.
Impossible.
Impossible. C'est compliqué à comprendre.
Des kata, une derrière.
C'est impossible.
C'est infini. C'est impossible. In fine,
ça sert pas pour le bien.
Comment on peut comprendre? Comment vous pouvez comprendre, par exemple, que ce qui s'est passé à Toulouse, c'est du bien?
C'est impossible à comprendre.
On peut pas comprendre. Comment vous pouvez comprendre que la Shoah, c'est du bien?
C'est
impossible. Nous, on peut pas comprendre. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un aussi autour de la salle qui peut dire que la Shoah, c'est du bien?
Surtout quand.
Il faut une force de caractère nain pour le dire, on n'arrive pas à le dire. Même si on l'utilise dans les textes, etc. Mais vous voyez, dès que c'est un événement qui est grand, on n'arrive pas à le dire. Bien qu'on sait, on le sait, mais on n'arrive pas à le sentir.
La Shoah, c'est pour le bien.
Quoi? Oui? Il n'y a pas de mal. Même la Shoah, c'est pour le bien.
La Shoah, oui.
Est-ce qu'on n'arrive pas à l'accepter?
Oui, c'est quoi?
D'accord? Donc voilà. Donc on est en plein dedans. On est dans ce que vous dites ici. Ouais, quand le problème est gros, on n'accepte pas.
Quand tu passes dans des
barres, c'est un peu gros quand même le problème.
C'est plus dans la nature.
Ça dépasse nos.
D'accepter.
Voilà, après, à un moment donné, quand tu veux parler de
l'acceptation. Eh ben, tu vois ce qui est curieux. C'est une bonne question ce que tu poses.
L'acceptation, c'est humain ou pas humain?
Ce qui est curieux, c'est que, en Égypte, on a souffert, on a perdu encore plus de monde qu'à la Shoah. D'accord, en Égypte. Et jamais, écoutez bien, c'est très curieux ça. Jamais on a vu, il y a des souffrances énormes. Il y a beaucoup de comparaisons. Jamais on a vu, ça a duré très longtemps, ça a duré 210 ans. Jamais on a vu, dans l'histoire, que les Juifs n'ont pas accepté l'épreuve. À quel moment ils sont venus se plaindre? Ils sont venus se plaindre à un certain moment, le seul moment où ils sont venus se plaindre contre Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu leur a dit, je vais venir vous aider. Il est venu pour les aider, et non seulement il les a pas aidés, vous connaissez l'histoire, au contraire, ils ont eu plus de travail. C'est la seule fois qu'ils se sont plaints. À part ça, ils se sont jamais plaints.
Parce qu'il a renforcé le labeur.
Comment c'est possible? Comment ils ont fait?
Il a pas dit j'ai entendu les pleurs et les plaintes de mon peuple pour venir.
Non, il a dit j'ai entendu la souffrance de mon peuple.
Les pleurs.
Non? La souffrance, ça veut dire il dit je vois la souffrance. Ça veut dire qu'apparemment ils arrivaient à accepter.
Entendu la souffrance, pour moi, ça veut dire
que... Non, ils se plaignaient pas. Ils sont jamais plaints. La Torah ne raconte pas qu'ils sont plaints. La Torah ne raconte pas qu'ils se sont plaints, les Bnei Israël. Ils se sont pas plaints. Ils ont accepté. Nous, aujourd'hui, on n'arrive plus à le faire. Vous voyez comment tout est dans l'acceptation.
Tu peux accepter de t'être fait mal, mais tu te plains quand même.
Bon. Non, ça, tu sais que tu t'es fait mal. T'as pas besoin d'accepter. Tu sais, ça fait mal. Non, mais... Tu dois accepter que c'est pour ton bien. Tu n'acceptes pas.
Tu te cognes tout seul.
Est-ce que j'ai le droit de décider ce qui est pour mon bien? Parce qu'à la rigueur, moi, si on me laisse le choix, ça m'intéresse.
Une fois, alors je vais vous donner un exemple. Puisqu'on a parlé de la Shoah. Une fois, le rabbi a donné un exemple. Il y a une fois.
Même si c'est pour le bien, j'ai pas besoin de passer par là.
Non, c'est pas ça qu'il a demandé.
Il y a une fois une jeune fille étudiante, qui, quand elle étudie l'histoire de la Shoah, tellement ça lui a fait de la peine qu'elle en est tombée malade. Elle est tombée malade, elle est à l'hôpital. Et elle a envoyé une lettre au rabbi pour lui dire, écoutez, c'était en train de la déprimer, elle était en train de partir. Elle n'arrivait pas à comprendre, elle avait un blocage complet. Elle voulait que le rabbi lui explique comment une chose comme ça a pu arriver. Le rabbi lui a répondu comme ça, bien sûr, une réponse qu'on s'imagine tous. Il lui a dit, écoutez, vous expliquez, je ne peux pas expliquer, moi-même je ne comprends pas, il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui pourra nous l'expliquer. Mais il a dit une idée intéressante. Il a dit, imaginez une personne qui n'a jamais vu de sa vie une opération chirurgicale. Il rentre dans un bloc opératoire, il passe par hasard, il voit 10 personnes autour d'un homme en train de le charcuter avec des couteaux. Qu'est-ce qu'il va dire?
À l'instant T, oui.
Hein?
C'est des sauvages.
Qu'est-ce qu'il va dire?
C'est inhumain.
Il va dire, c'est des sauvages, ils sont en train de le tuer. Mais nous, en vérité, on sait que quoi? Que ces médecins, non seulement ils sont pas en train de le tuer, mais ils sont en train de le guérir. Donc le rabbi, ce qu'il a expliqué, c'est que quand ma chère viendra, Kadosh Baruch Hu nous expliquera. Il avait dit une phrase très dure. Il avait dit, la seule personne qui pourra nous expliquer, c'est Akadosh Baruch Hu en personne. Et Akadosh Baruch Hu nous montrera comment en vérité c'était une opération, et que nous en vérité on était comme ceux qui savent pas ce que c'est une opération, donc c'est pour ça qu'on croyait qu'il nous charcutait, alors qu'en vérité c'était pour notre bien. Mais c'est pas parce que je vous donnais un exemple que j'ai pas expliqué. Parce qu'on comprend pas. Ça ne justifie toujours pas pourquoi on a tué tous ces gens-là. Est-ce qu'il fallait ça pour sauver l'homme Israël? Quelle faute on avait fait déjà? Il n'y a pas d'explication. Qu'on soit clair. Mais.
Nous on l'a pas.
Nous on l'a pas, non. Nous, on l'a pas, on la comprend pas. Je reviens ici. Vous savez, on l'a vu, puisqu'on a parlé de la Shoah, encore une fois. Bon, c'est le mois de Nissan, il ne faut pas trop parler de choses comme ça, mais on a vu après la Shoah que il y avait des gens comme ça qui avaient cette force de caractère. Pas tout le monde a eu ça, mais il y a des gens qui ont eu cette force de caractère. Je sais, par exemple, il y avait un Admour qui s'appelait le Admour de Tzanz Kloisenburg. Il avait 14 enfants. D'accord?
Bon accent.
Ouais. Alors, il avait ça un visage en Pologne. C'est un visage en Pologne. Il avait, écoutez bien l'histoire. Il était marié. Il avait 14 enfants. D'accord? Tous morts à la Shoah. Sa femme, ses 14 enfants. Tous. Tous. Pas un. Rien. Et il est sorti, quand il est sorti, il avait, je sais pas, il doit avoir 40, 43 ans, truc, quelque chose comme ça. Il est arrivé aux États-Unis. Il s'est remarié. Il y a maintenant, pas seulement ça, attendez. Il avait des chassidim. Tous morts. Rien. Walou, rien, Dieu l'a laissé sans rien. C'est-à-dire qu'une personne qui a tout pour s'effondrer. Eh ben, il a réussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, on ne sait pas comment il a fait. Il est niftar, ça fait 15 ans. Il a réussi à se remarier, à refonder une des plus grandes cours chassidiques qui existent. Et c'était un des plus grands rabbanim qui encourageait les gens dans les moments de détresse. Chaque fois que les gens avaient passé par des moments de détresse, ils allaient le voir. Et lui, il leur racontait son histoire. D'accord.
Ça t'apprend à relativiser.
Oui,
c'est faire du soin élastique.
Vous savez, c'est un petit peu, la Gemara raconte à propos de Rabbi Yochanan. La Gemara dit que le maître Rabbi Yochanan, il a perdu, je crois que lui c'était 10 enfants. Il avait 10 enfants, il a perdu 10 enfants. Il les a enterrés l'un après l'autre. Et la Gemara raconte que Rabbi Yochanan, chaque fois, il demandait, bon, après, c'est Marloquet dans la Gemara, comment il a pu faire ça, mais chaque fois, il gardait un os d'un des enfants. D'accord? Après, c'est une grande Marloquet, comment il a pu faire ça? Et quand? Non, non, non. C'est une grande Marloquet, comment il a pu faire ça? Normalement, on n'a pas le droit. Voilà, bon. Donc, il y a une Marloquet dans la Gemara, comment il a pu faire, quel os il a pris, etc. Bon. Peu importe la question. En tout cas, il y en a qui disent que c'était un os, c'était pas un os du mort, mais c'était un os qui rappelait le mort. Bon, peu importe la question. En tout cas, la Gemara elle raconte que chaque fois qu'il allait consoler un mort, il avait toujours dans sa poche les os.
Il montrait les os.
La Gemara raconte en brachot. Et que tout de suite, alors encore une fois, qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Elle dit que tout de suite ça a aidé les gens à relativiser. Bah oui, quand tu vois ça, tu dis bon, ça va. Donc tu acceptes.
Ouais, mais bon, ça relativise, mais...
Non, mais les autres, tu peux
pas oublier ton nom.
Oui, mais ça veut dire, ça t'aide à accepter.
Ça t'aide à comprendre qu'il y a d'autres du malheur.
Ok.
À accepter totalement.
Alors. Maintenant, regardons, comme c'est bientôt l'heure, je vais sauter quelques lignes, on va développer parce que je voudrais finir ça avant Pessah.
Oui, parce que là, il nous manque des réponses importantes.
Il nous manque des réponses importantes. Alors, excuse-moi.
De Pessah quand même,
Alors, regardez. Accepter. On va essayer de finir sur une note positive. Six lignes avant la fin de la page. Ve'etza ayyoutza. Ve'etza ayyoutza, j'ai sauté quelques lignes.
C'est bon? Le pizza avant le céder des matzos.
Il a dit, même dans les SMS, 100%
chametz. 100% chametz.
À part un
et ça, Yehoutza, allez, Rabotai, on y va. Donc ça veut dire quoi? Il te dit, Rabotai, allez, s'il vous plaît, il nous reste encore 10 minutes, il faut qu'on finisse. Il te dit, donc, Veimeno, pardon, je reprends Veimeno, juste au-dessus. Veimeno Mekabel. Vous avez Ve. Alors Veitza, c'est bon. Donc il te dit, Veitza, Yehoutza, Lekabel, Ve'ahava. Il va nous donner un conseil maintenant, une technique pour accepter par amour, avec amour, ce que Kadosh Baruch Hu nous donne. Parce que rappelez-vous, si je n'accepte pas, c'est comme si que je suis en train de donner le dos à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je lui montre que j'ai rien compris. D'accord. Maintenant, concrètement, comment je fais? Tu vas pas me forcer à accepter, j'ai pas accepté. Qu'est-ce que tu veux me faire maintenant? Alors, il va nous donner une technique. On va essayer de se concentrer. Eitza, aïe, utza, quel est le conseil? Comment il faisait à l'époque, la Gemara, les kabel, be, ava, pour accepter par amour les épreuves que Kadosh Baruch Hu nous envoie? Iatzat, Hachem, Befir, Rachamenu, Zichronam, Livracha. Tu dis, la réponse se trouve dans la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, dans le traité Brachot, pour ceux qui ont déjà étudié la Gemara Brachot, dans le premier chapitre, elle dit, les fashpesh bema asav. Elle dit qu'une personne doit chercher dans ses actions. La Gemara, dans le traité Brachot, page 5, elle dit comme ça. Elle dit, si une personne y voit, im adam roe she isurin ba'in alav, si un homme y voit que des épreuves viennent sur lui, c'est-à-dire qu'il voit des épreuves arriver, Yefashpesh bema asav, il doit chercher dans ses actions. Alors, la Gemara n'a pas posé la question, il dit, mais quel rapport? Si quelqu'un, il a des problèmes, ça veut dire, quelqu'un, par exemple, qui a un souci, par exemple, je sais pas, moi, il tombe malade. Je sais pas, quelle maladie il peut avoir, Dieu préserve. D'accord? Une maladie qu'on peut aller voir un docteur. D'accord? Une grippe. D'accord? Qu'il fait souffrir, il fait souffrir, il est pas bien. Qu'est-ce que tu dis, la Gemara? La Gemara, elle te dit, non, une grippe, c'est tout ce qui est lié au froid et au chaud, tout ce qui est lié au froid et au chaud, c'est pas un bon exemple. Parce que ça vient pas d'Akadosh Baruch Hu, ça vient de nous. Vous savez ça? Toutes les maladies qui sont liées au froid et au chaud, ça vient de notre faute, c'est pas d'accord les gens qu'ils envoient. La grippe, c'est un virus, c'est vrai.
La grippe du poulet.
Le quoi?
La grippe avien.
Oui, alors je reprends. À Kolbi de Shabbat, Khoutz Mekor, Khoutz Mekor Metine. Donc je reprends. Donc il te dit comme ça, il te dit maintenant on va lui donner un conseil. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle dit que si une personne voit que des épreuves lui arrivent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher dans ses actions. C'est pas logique. Si une personne voit qu'il y a des épreuves qui arrivent, bah t'as qu'à me dire, il va essayer de régler les épreuves. Il va essayer de voir le docteur. Non. Gemara Brachot, c'est une des premières choses que la Gemara dit. Vous savez, dans la Gemara, il y a 32 macérettes. D'accord? Et la première macérette, cinquième page. Bon, on n'a pas fait exprès. D'accord? Cinquième page, qu'est-ce que dit la Gemara? Comme ça, vous vous rappellerez les Tunisiens. La Gemara dit, celui qui voit que des épreuves lui viennent, il doit chercher dans ses actions. Pourquoi? Quel est le message de la Gemara? Si vous expliquez ici. Ve'im tsalo avonot atzrichim miruk isurim. Il faut qu'il cherche des fautes qui avait besoin d'être nettoyé par des issourim, par une punition comme ça. Ça veut dire comme ça. C'est quoi l'acceptation? C'est très fort ce qu'il va expliquer ici. Alors écoute bien, c'est très fort ce qu'il va expliquer ici. Là, finalement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut un conseil pour accepter. Seulement, le problème, c'est que nous, notre cerveau est cartésien. C'est que j'ai beau me répéter 100 fois, j'accepte, j'accepte pas. Comment je peux faire pour accepter? Il faut m'expliquer que je dois accepter. Il faut m'expliquer pourquoi ça devait m'arriver. Comment je m'explique que ça devait m'arriver? La seule solution qui te dit ici, c'est la solution de la Gemara. Je dois chercher dans mes actions. Et je vais forcément arriver à une avéra qui est très grave que j'ai fait. Et que dans ma tête, je dois me dire, vu la gravité de cette avéra, je remercie Akadash Baruch Hu de me nettoyer avec cette épreuve.
L'action mauvaise alors.
Donc, attendez, laissez-moi arriver, parce que c'est important ce qu'il va dire ici, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que je fais ce calcul-là, je ne suis pas en train de dire que je justifie Akadash Baruch Hu, etc. Juste, ça va m'aider à accepter. Parce que répéter 100 fois « j'accepte », ça ne suffit pas. Ça n'arrivera pas, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas me forcer d'accepter. Je vais répéter 100 fois et automatiquement, ça va rentrer dans ma tête que, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire que « ah, j'ai trouvé une avéra ». Là-bas, la Gemara dit comme ça. La Gemara dit, le terme que la Gemara emploie, la Gemara ne dit pas « yéhapès bémaasav », il doit chercher dans ses actions. Elle dit « yéfashpèche bémaasav ». Yéfashpèche, les fashpèches en araméen, ça veut dire « rechercher dans les recoins ». C'est curieux parce que c'est une notion qu'on retrouve aussi pour le Khamet. Yéfashpèche.
L'orgueil.
D'accord? Le chercher dans les recoins. Alors, à l'époque, la Gemara, c'est encore une fois, bon, nous, aujourd'hui, quand quelqu'un, il prend une claque, quand quelqu'un, aujourd'hui, il a des épreuves, c'est rare les gens qui vont dire, écoute, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, j'ai pas fait d'avérante. Vous connaissez beaucoup de gens comme ça? Bon, moi, je suis pas comme ça, en tout cas. Mais apparemment, à l'époque, la Gemara, vous avez des gens comme ça, que, ils devaient chercher dans les petits recoins pour trouver une avéra qui a fait qui justifie ce qui lui arrive.
Non, si on n'a pas besoin de
gérer. Alors, maintenant, je réponds à ta question. Attention,
je sais pas pourquoi.
Je réponds à ta, alors, attention, très important ce que je veux dire ici. Ça ne veut pas dire que la raison que je vais trouver, c'est la raison pour laquelle je m'ai envoyé. Parce que peut-être que c'est pas la raison. Mais au moins, ça va m'aider. D'accord? Parce que peut-être qu'une avéra qui me paraît grave à moi, en vérité, n'est pas si grave que ça. Et en vérité, une avéra qui me paraissait pas si grave, en vérité, était très grave. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de chercher. Et que quelque part, à un moment, il y a un déclic qui va se faire qui dit, ah ouais, vu ce que j'ai fait, bon, ça va. Je prends. J'accepte. Il y a cette acceptation. Et c'est pour ça, c'est ça la raison pour laquelle la Gemara te dit. Alors, c'est assez curieux parce que, qu'est-ce que te dit la Gemara? Il explique plus tard. La Gemara ne te dit pas qu'il cherche dans ses avérotes et qu'il fasse tes chouvas. La Gemara n'a pas dit ça. La Gemara n'a pas dit celui qui voit une épreuve arriver, qui cherche dans ses avérotes et qu'il fasse tes chouvas. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il fasse des choix. On a dit celui qui voit une épreuve arriver, qui cherche dans sa avérote. Point. Pourquoi tu veux que je cherche dans ma avérote? Pourquoi ça s'est passé? Parce que le fait de chercher la avéra, ça va m'aider à expliquer pourquoi ça m'est arrivé. Après la teshuva, c'est autre chose. C'est un autre sujet, la teshuva. Ça, c'est encore une fois, c'est la suite, ça déjà. Est-ce que vous voyez la nuance dans la Gemara?
Alors quand tu acceptes, tu dis
c'est la Gemara n'a pas dit celui qui voit la Gemara n'a pas dit celui qui voit une épreuve qui lui arrive, qui cherche dans ses actions et qui fasse tes choix. Elle a pas dit ça.
Donc c'est pour ça qu'on va voir le rabbi pour qu'il nous aide à
elle
trouver.
Elle a dit qu'il cherche ses actions et c'est tout. Pour aider à accepter la situation. Alors avec ça, selon ça, les chachamim ils expliquent, ils disent que c'est aussi la raison pour laquelle on va voir un rabbi. Qu'est-ce qui se passe quand on va voir un rabbi? Qu'est-ce qui se passe? Quand on va voir un rabbi, automatiquement, notre neshama est élevé à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Et qui est beaucoup plus haut. D'accord? Je vous ai mentionné ça la semaine dernière rapidement. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, comme quand je vais voir un tzaddik, ma neshama, elle s'élève au-delà des problèmes. Automatiquement, ça m'aide, pas à comprendre.
À accepter.
Parce qu'il y a plusieurs manières pour accepter. Voilà. Vous voyez, les techniques pour accepter, il n'y en a pas 10 000. Pour accepter, soit il faut que je m'explique ce qui s'est passé, soit il faut que j'arrive à m'élever à un niveau qui fait que le problème ne paraît plus si grand que ça. Quand je fais mon travail tout seul sur moi, qu'est-ce que je fais? Je m'explique que ça devait m'arriver. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué à le faire. Qui est capable aujourd'hui de dire, je m'explique? C'est très compliqué. C'est très compliqué.
C'est pas forcément qu'on l'accepte.
C'est pour ça que dans ce cas-là, on va demander à l'aide d'un tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire le tzaddik? Le tzaddik, il va t'élever à un niveau un peu plus haut. Quand tu vas voir le tzaddik, automatiquement, tu vas être à un niveau plus haut et automatiquement, le problème paraîtra beaucoup moins grand. Et comme ça, tu auras résolu le problème. Mais vous voyez qu'ici, d'après l'Admor HaZaken, c'est curieux comme approche. Parce qu'apparemment, à l'époque d'Edmond Razaken, il y avait des rabbis que dès que le chassidim avait un problème, ils disaient, venez me voir, je m'occupe de vous. Edmond Razaken était contre. Il a dit, moi, je veux un vrai travail. C'est quoi un vrai travail? C'est que d'abord, le chassid doit faire tout ce qu'il peut de son côté pour essayer de chercher dans ses actions, pour essayer de se dire pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a envoyé ça, pour essayer de se l'expliquer pour accepter. Et vraiment, s'il n'arrive pas, c'est là qu'il vient me voir. C'est pour ça que une fois l'Admor HaZaken a témoigné, il a dit que si j'avais pas mis cette restriction là, si j'avais laissé les gens venir comme ils veulent, j'aurais eu des milliers de chassidim, des dizaines de milliers de chassidim par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Il dit j'ai pas voulu. Il dit moi je voulais des gens vrais. Des gens quand ils viennent, c'est pas qu'ils viennent pour trouver une issue facile. C'est des gens qui ont déjà tout essayé et qui viennent nous voir parce qu'ils ont rien trouvé à part ça. Et ça ça demande beaucoup de travail, c'est ce qu'il dit ici. Ça veut dire en d'autres termes, si on reprend l'exemple du père qui a frappé le fils. Le père il a frappé le fils. Qu'est-ce qu'il a fait le fils maintenant? Le fils, il reste devant le père. Il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Il essaie de se dire, quelle bêtise grave j'ai fait qui justifie ça? Deux options. Première option, il trouve. Bah, il dit, ah oui, j'ai fait ça, je mérite.
Non, mais il lui dit, le père.
D'accord?
Non, mais là,
le père, il lui dit pas, il lui met la claque, c'est
il,
tout.
Il dit rien, et non seulement.
Dieu nous parle pas, c'est le problème.
Il va voir la mère pour qu'elle lui explique.
Alors, justement. Écoutez bien, non, je voudrais finir avec cet exemple-là. Donc, Rabotai, dans deux secondes, laissez-moi finir l'exemple. Il te dit comme ça. Première option, si je reprends cette, première option, je reste devant mon père, et j'arrive à réfléchir, me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je me dis, oui, c'est vrai, il a raison, la faute que j'ai faite était grave, j'ai mérité ça. Ça, c'est un niveau. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui m'a aidé à accepter? C'est le fait que j'ai compris la gravité de la faute que j'ai faite. Mais des fois, on n'arrive pas. Là, dans ce cas-là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de demander de l'aide. Chez qui il va aller le fils? Il va aller chez la mère. Chez la mère. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire la mère? Qu'est-ce qu'elle va lui dire la mère, en général? Une bonne mère, qu'est-ce qu'elle va lui dire?
Réfléchis. Tu vas mériter.
Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Qu'est-ce qu'elle va lui dire la mère? Elle va le prendre dans ses bras. Elle va lui dire, mon fils. D'accord, non. Elle va lui dire, mon fils, tu mérites, si papa il t'a donné la claque, c'est que tu méritais la claque. La mère, c'est comme le sadique. La mère, c'est celle qui va venir pour t'aider.
Elle rajoute une couche.
Pour t'aider à faire ce que tu n'arrives pas à faire tout seul. Mais en vérité, si on arrive à le faire tout seul, c'est évident. D'accord? Si on arrive à le, donc pour accepter. Si on arrive à le faire tout seul, c'est évident qu'il faut le faire tout seul. Et donc là, ici, on voit l'approche intéressante d'Admor HaZaken, qui dit,
donc on a bien un problème.
Donc ça veut dire comme ça, ça veut dire qu'on a toujours besoin d'un rabbi, mais en vérité, ce qu'il considère, c'est qu'avant d'aller voir un rabbi, il faut d'abord essayer de chercher en soi.
D'accord, mais ici, il accepte et ça continue, c'est qu'il n'a pas accepté.
Il faut chercher
attends,
le problème.
Attends une seconde. J'ai pas dit, c'est pas parce que le fils il a accepté qu'il devait recevoir une claque que la claque ne fait plus mal. Le fait d'accepter, ça veut dire je comprends pourquoi ça m'est arrivé.
Une fois d'accepter, tu surmontes mieux les
idées. Oui. Il comprend? Il dit bon, ça va, je prends ma claque, je comprends. J'avance.
C'est là, il a pas plus.
Il a compris le message.
Il va pas recommencer. Ah ouais.
Non, ça dépend. Si, non, s'il a accepté truc, sans savoir, il peut la recommencer.
En cachette.
Ah voilà. C'est-à-dire, si le fils maintenant, il va se dire, si le fils maintenant, quand son père lui donne une claque, il va se dire, ah ben la prochaine fois, je ferai attention de ne pas me faire attraper. Ça veut dire que il a rien compris.
Non, dans notre cas, nous, c'est pas possible hein, de faire attention de ne pas se faire attraper.
Ouais,
rien avant de jouer. Hein.
Non, si ton fils, elle l'a consolé, dire, tu le méritais, c'est pour ton bien. D'accord, il accepte. Mais sauf quand Sophie, il ne sait pas ce qu'il a fait, il peut la recommencer, cette bêtise.
Non, c'est pour ça qu'on l'a dit.
Bah attends, elle lui a pas dit.
Il sait la bêtise qu'il a fait. Tu sais, j'avais entendu une fois un psychologue qui avait dit, quand tu punis un enfant, t'as pas besoin, vous entendez ça, j'avais entendu un psychologue une fois qui avait dit, quand tu punis un enfant, il faut pas lui dire, je te punis parce que t'as fait ci, parce que l'enfant il sait très bien ce qu'il avait, t'as pas besoin de l'expliquer. Il est conscient qu'il avait une bêtise.
Maintenant,
d'accord.
Oui.
Moi, ce que j'ai entendu
des éducateurs d'aujourd'hui, ouais. En dehors du,
Ouais, tu n'expliques pas aux enfants ce qui est le truc.
On croyait que l'enfant ne sait pas pourquoi il a fait.
Non,
il
comprend. Aujourd'hui, non, je te
aujourd'hui tu ne peux pas punir quelqu'un.
Non, sans, sans je ne dis pas pourquoi il a ce qu'il a fait. Il recommencera. Bah oui.
Ouais. Oui, parce que des fois, pour eux, c'est rien.
C'est rien.
Voilà, exactement. Ouais. Ils voient pas la latrune. C'est ça que je veux dire.
Voilà.
La gravité.
Bon. En tout cas, voilà ce que je voulais, arriver ici. Alors, on va, et là, ce qu'il dit ici maintenant, il dit, ve'az, alors, parce que je voulais finir avec une note positive. Donc, ve'imtsalo, ve'ir et la col godel avato elav, ke machal meler gadol ve'nora arochet birvodo ou be'atzmo, tsu'ad beno yichido merov avato. Il dit, comme l'exemple d'un grand roi, et un roi redoutable, mais qui va laver lui-même les excréments de son fils. Tellement il aime son fils. C'est-à-dire que, normalement, personne n'aime laver. Je veux dire, quelqu'un ici aime changer les couches? D'accord? On n'aime pas.
Ouais, on n'a pas le choix.
Ben là, tu as un père.
Madame,
il te donne une autre image. Il y a plein d'images dans cette lettre. Il te donne une autre image. Il te dit, imagine-toi que c'est comme un père que tellement il aime son fils, qu'il dit à sa mère, il dit, laisse-le, tellement j'aime mon fils, que même la couche sale, c'est moi qui ai envie de la changer. Ben c'est ça, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que même pour nous punir, il n'envoie pas quelqu'un pour nous punir, il nous punit lui-même. Et on doit avoir la émouna que c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui nous punit, qui nous envoie cette punition. Kemoshe Katouf, comme c'est écrit, dans Isaïe, Im rachatz Hashem tsoat benot Sion, ou kemaim apanim alpanim, titorer ahava le belef kol maskil mevin yakar ma'ut avat Hashem al tartonim, asher hi, yekara vetova mikol chayalamim kolay, Kemoshe Katouf, ma yakar chazdecha. Ah voilà. Bon, je voulais finir à l'oral parce que c'est déjà l'heure. Il dit comme ça, il dit ce qui va se passer. C'est que quand on a compris le message d'Akadosh Baruch Hu, quand on a compris le message de la claque, eh ben souvent ce qui va se passer, c'est que Itmatku Agvorot Peshorsham, c'est ça ce qui peut aider à alors dans le terme de la Kabbalah, ça veut dire on appelle ça Itmatku Agvorot, ça veut dire l'adouciment des Gvorot de la rigueur. Adoucissement de la rigueur. Ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que quand moi je prends ça comme une claque, je prends ça comme de la rigueur. Alors Akadosh Baruch Hu voit ça comme de la rigueur. Mais si en vérité, au travers de la rigueur, je retrouve de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, je retrouve que c'est pour mon bien, alors là, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va faire un effort pour me montrer de la vraie bonté. On va reprendre l'exemple de tout à l'heure. D'accord ? Si le fils, il a pris la claque du père, voilà, je vais faire le lit comme ça, on s'arrête. Si le fils, il a pris la claque du père, et il montre pas au père qu'il a compris le message, le père, il fera pas un pas vers le fils. Il fera pas un pas parce qu'il va dire, bon, il a pas compris. Mais si le fils, il montre à son père qu'il a compris, c'est très possible que le père, 5 minutes plus tard, il va dire, bon, viens, t'as compris. Il va le prendre dans ses bras, il va lui dire, bon, tu recommenceras plus. Chose qu'il n'aurait pas fait si le fils serait sauvé dans sa chambre.
Ouais, il serait encore plus énervé.
Vous voyez la différence? Il dit la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu es là, tu reçois une épreuve. D'accord? C'est ça le mot de la fin, c'est ça la beauté. Quand tu es là, tu reçois une épreuve et tu dis, je vais me sauver dans ma chambre, je vais aller voir, etc. Pourquoi je suis pas d'accord? Donc ça veut dire que tu prends l'épreuve comme de la rigueur, donc ça reste de la rigueur. On peut rien faire, on est obligé de la laisser comme ça. Mais quand tu te dis dans ta tête qu'en vérité, tu comprends que c'est pour ton bien, c'est-à-dire, tu fais un pas vers Akadosh Baruch Hu pour te dire, attends, il m'a fait ça, c'est certainement pour mon bien, c'est sûr que c'est pour mon bien. Quand tu fais un pas, ben, c'est comme le père, il va se dire, attends, mon fils, il a fait un effort pour me comprendre, alors moi aussi, je vais faire un effort pour ne pas trop le laisser comme ça dans cet état-là, je vais le prendre dans mes bras et je vais arrêter la situation. Ça veut dire qu'en vérité, le fait d'accepter la chose, très souvent, ça c'est pour revenir, David, à ce que tu as dit la dernière fois, le fait d'accepter la situation, très souvent, c'est ça ce qui peut faire que l'épreuve s'en va. C'est pas une garantie que l'épreuve s'en va. Mais des fois, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, juste qu'on accepte qu'on a fait une bêtise. Et après, ça s'en va. D'accord? Donc, vous voyez comment des fois le fait d'accepter, ça peut faire que ça s'en aille. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, comme le rabbi disait toujours, Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on n'arrive jamais aux épreuves. Et que Akadosh Baruch Hu, il nous donne toujours le Tov à Nir'e va Nigle. C'est un thème qu'il dit dans la lettre plus tard ici. Tov à Nir'e va Nigle, ça veut dire que Dieu nous donne toujours un bien qui est visible et dévoilé. Parce que, pourquoi on précise quand on dit un bien visible et dévoilé? Dans le Birkat Hamazon, on dit ça aussi. Parce que même un mal, c'est un bien. Mais seulement quoi? Comme on se dit peut-être qu'on n'aura pas la capacité de supporter ça, donc on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner que du Tov, retenez ces trois termes. Tov, Anir'e, Ve'anigle, Tov, du bien, Anir'e, qui est visible, c'est-à-dire qui est visible en tant que tel, Ve'anigle, et qui est dévoilé en tant que bien. Pas quelque chose qui est caché, qu'on découvrait comme un charme.
Il dit ça souvent, le rabbi aussi.
Oui, le rabbi disait ça souvent. Donc, le rabbi dit, vraiment, il disait souvent que, souvent, le rabbi disait que nous, ce qu'on veut, c'est du bien. Vous voyez, il y a une fois,
visible.
Une fois, hein, il y avait une longue discussion entre le rabbi et un autre admour. Qu'est-ce qui est l'épreuve plus grande entre l'épreuve de la richesse et l'épreuve de la pauvreté? Pour moi, ça ressemble beaucoup à ça.
Ça dépend à laquelle on veut nous accepter.
D'après vous, qu'est-ce qui est une plus grande épreuve? L'épreuve de la richesse ou l'épreuve de la pauvreté?
La logique, c'est la richesse. La logique, c'est la pauvreté.
Qu'est-ce qu'il disait ce Admour? Ce Admour qui était venu voir le rabbi. Il disait, on a vu qu'il y a des gens, quand ils étaient pauvres, ils étaient religieux, et dès qu'ils sont devenus riches, la richesse leur a tourné la tête, ils ont arrêté la Torah. Donc, l'épreuve de la richesse. D'accord? Non, alors qu'en général, c'est rare le côté contraire. En général, ceux qui sont pauvres, la pauvreté, ils restent religieux.
Et parce qu'ils sont riches.
D'accord? Alors, attendez. Donc, ce rave-là, il disait au rabbi. Ce rave-là, il disait au rabbi. Il disait, peut-être c'est mieux. Il disait, peut-être c'est mieux que, pourquoi vous, parce que le rabbi, il a dit, on donne une bracha, que tous les juifs deviennent riches, que tous ceux qui ont de l'argent, ils aient de l'argent. Il dit, mais pourquoi? Pourquoi vous dites ça? C'est mieux qu'ils restent pauvres. Comme ça, au moins, ils restent religieux. Alors, le rabbi, il a répondu la réponse qu'on vient de dire ici. Il lui a dit, c'est vrai ce que vous dites. Mais nous, ce qu'on veut, c'est Tov à Nire et à Niglé. On veut du bien qui est visible. Pourquoi? Parce que qui te dit que tu vas supporter l'épreuve de la pauvreté? L'épreuve de la richesse, alors Dieu, il t'a donné du bien qui est visible. Dieu est le même Dieu qui t'a donné cette richesse, il t'aidera, Bezrat Hashem, à la supporter. D'accord? Kadosh Baruch Hu fasse qu'on voit de nos jours que du Tov à Nire et à Niglé.
Il y a très peu de riches.
Donc, Michael, conclusion, est-ce qu'on va voir le tzadik ou pas?
On va voir le tzadik.
Non, non, mais.
Hein? Pourquoi?
Voilà, déjà, ouais.
Mais, mais tu vois, mais est-ce que tu vois sa démarche ici? C'est qu'il y a d'abord une démarche personnelle.
Mais 1%, c'est quand même 6 millions.
Non, mais c'est vrai que la
compréhension au Moyen-Âge. Mais va vers Amazon.
7 millions. Au Moyen-Âge.
600 millions.
Tu vas chercher dans ta
Cherche la vera la plus grave que tu as fait.
Cherche pas, c'est
il a même pas dit de faire tes chouva. Il a dit qu'au moins cherche une avera pour faire dépendre la punition de cette avera. Mais c'est compliqué. Quand on est dans une démarche de chouva, c'est compliqué.
On est en plein Pessar, là, c'est le Hametz, c'est l'orgueil.
C'est-à-dire, quand on est dans une démarche d'échoua, ça veut dire qu'on n'a jamais fait quelque chose, donc on commence à le faire, on ne doit pas se dire, parce que je n'ai pas fait avant, tu vas me punir. Parce que, d'accord. On parle d'une personne qui a déjà fait et qui faute quand même. Enfin, je peux vous dire, c'est pas...
Aujourd'hui, on est toujours...
Bon, c'était d'accepter.
Non, en fait, on a toujours...
Une fois que t'as accepté, t'as fait le plus gros. Une fois que t'as accepté, t'as fait le plus gros. T'as accepté qu'il y a un problème. C'est comme le père et le fils. Le père, ce qu'il attend, c'est pas que... Le fils, il est venu, il a pris un vase, il l'a cassé. Tu crois que le père, il attend que le fils va réparer le vase? Le vase, il est cassé, c'est fini. D'accord? Le vase, il est cassé. On peut plus rien faire. Le père, il va frapper le fils. D'accord? Si le fils se sauve dans la chambre et il crie, il pleure, etc., le père ne fera pas un pas vers le fils. Mais si le fils y montre à son père qu'il a compris qu'il a fait une bêtise, le père reviendra vite vers le fils. Parce que le fils lui a montré qu'il a compris. Maintenant, le vase, il est cassé. Ça, c'est la teshuva. Il est cassé, le vase. C'est fini. C'est pas grave. Non, peut-être, oui, peut-être, c'est pas grave. Le fait même, bonsoir, salut. Le fait même d'avoir accepté, le fait même d'avoir accepté, c'est déjà énorme.
20% d'arabes en Israël. Toujours plus. Il y a la solution qu'on n'a pas parlé.
Il a trouvé ton défaut.
Oui, ça veut dire que tu attribues la punition à ce défaut.
Il y a une solution que tu n'as pas dit. Il y a une solution que tu n'as pas dit.
Oui. Non, attends, je finis de répondre à sa question. J'ai pas dit que ça me fait avancer. J'ai pas dit que ça me fera faire tes chouvins. J'ai pas dit que ça enlèvera l'épreuve. J'ai dit que des fois, j'ai dit que très souvent, ce que le père attend, c'est que tu montres que tu as compris que tu avais un problème. Moi, le problème, je vais le régler. Je peux le régler. Ça coûte rien. Tu m'as cassé un vase. Je vais racheter un vase. 50 euros, je vais racheter un nouveau vase. C'est pas les 50 euros le problème ici. C'est que je veux que tu montres que tu as accepté, que tu as compris qu'il y a un problème. Une fois que tu montes, tu as compris qu'il y a un problème, le père, il te prend dans les bras, il dit, mon fils, ça va, je te fais convaincre, on ne commencera plus. Tu lui montres en acceptant, te disant, oui, c'était, je le méritais. Vu la vera que j'ai fait, je le méritais. Tu vois ce que je veux dire?
À Bruxelles, ils ont des députés voilés.
T'as un problème. Comme Marcel, il a dit tout à l'heure. Il a dit, ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, que quand la personne cherche une avéra qu'il a fait, et il va dire, oui, je le méritais.
C'est pas moi qui dis ça.
D'accord? Qui c'est qui a dit je le méritais? C'est toi? Je le méritais.
Que tu mérites.
la punition.
Et le fait même de dire ça, le père il reviendra vers le fils. Il dit, ah, t'as compris, t'es mon fils.
Mais il y a une que qu'on a pas, j'estime qu'on a pas parlé. Non, c'est sûr qu'on ne fait pas. C'est la rahmanout, c'est-à-dire t'as tellement de la peine de voir ton fils qui malgré qu'il va pas à regretter, qu'il va faire, mais il est toujours dans les pleurs. Que toi-même, t'as de la peine de le voir comme ça, que tu te dis bon, allez.
Oui, mais c'est ce qui fait Kadosh Baruch Hu.
Ce qui fait Kadosh Baruch Hu. Mais ça veut dire qu'en vérité, bon, je comprends ton point. Je finis avec ça. En vérité, ce qui explique dans un autre endroit là de Moura Zaken,
il a pas compris.
C'est que si Kadosh Baruch Hu t'éprouve, ça veut dire qu'il pense que tu peux le faire.
Oui, c'est un leçon.
Écoute-moi ce que je veux dire. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as un fils que tu dis qui est ultra sensible, donc tu lui pardonneras plus facilement. Mais quand t'as un fils, tu sais qu'il a un caractère beaucoup plus trempé. D'accord? Tu résistes. Pourquoi tu résistes? Parce que tu sais qu'il peut aller plus loin que ça. Non, pas tu résistes, parce que tu sais qu'il peut aller plus loin que ça. Tu sais qu'il peut aller plus loin que ça. Quand c'est quelqu'un qui est très sensible, c'est une tête à fille comme ça, elle est là en train de pleurer, etc., avant tu craques.
Oui, voilà, exactement.
D'accord? Mais si Akadosh Baruch Hu m'envoie une épreuve, ça veut dire qu'il pense que j'ai un caractère en acier trempé et que je peux tenir. Je peux chercher en moi. Sinon, il me l'aurait pas fait. S'il pensait que j'étais une petite femmelette, il me l'aurait pas. Enfin bon. D'accord? Il l'aurait pas fait. Tu comprends ce que je veux dire?
Tu sais qu'il a pas perdu. Oui, ça, j'ai bien compris ça, mais comme je dis, malgré tous les.